C'est parti. Allez, donc je redis bonsoir à tous. Donc j'ai démarré l'enregistrement Radio Pléiade numéro 2. Donc nous sommes le lundi 10 mai et il est 21h. Et bienvenue sur Radio Pléiade, donc la radio dont vous êtes le héros et le rendez-vous du lundi qui réveille le Jedi qui est en vous. Donc voilà, bienvenue à tous. N'hésitez pas à intervenir, tous autant que vous êtes. On sait que vous avez plein de choses à partager. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à témoigner, n'hésitez pas. Alors, ce rendez-vous est là pour parler des sujets qui nous intéressent le plus, hein, pour se préparer au grand changement qui nous attend, pour parler de spiritualité, pour parler de divulgation. Donc, tous les sujets peuvent être abordés. On ne parlera pas des sujets qui. Enfin, on ne va pas parler de jardinage ou encore que, on pourrait parler de permaculture, mais on ne va pas parler de cuisine, encore que, on pourrait parler des aliments qui nous montent en vibration. Enfin voilà, on peut parler un petit peu de tous les sujets. Donc c'est vous qui faites le programme, même si on a quelques petites idées. Et notamment, je vois donc une personne qui s'appelle Alice, qui est arrivée sur le salon vocal et qui avait des choses très intéressantes à partager avec nous, que ce soit sur le plan de la spiritualité ou dans la thématique de la communication animale. On pensait qu'on allait vous faire justement, qu'on allait échanger un petit peu sur le thème de la communication animale. Il y avait une autre personne qui était une personne ressource également sur ce sujet-là. Je me souviens, je crois que j'ai dit, ah ben c'était Gaïa Sol. Je pense que c'est Gaïa Sol, puisqu'il peut nous parler justement de ça et puis de son expérience. On en avait parlé un petit peu la dernière fois avec son chien. Voilà, donc comme disent les anglophones, the floor is yours, hein. Donc la scène est à vous, n'hésitez pas à intervenir. Est-ce que vous avez besoin d'un sujet qu'on lance sur la table? Alors Alice, tu nous fais un petit coucou?
Bah coucou à vous les gars.
On veut entendre ta jolie voix.
Ouais, ma jolie voix. Ouais, je pensais pas que tu allais parler de ça maintenant, mais bon, après, je sais pas si tu me diras quand j'interviens si je dois intervenir sur la communication animale, il n'y a pas de problème.
Mais on peut en parler plus tard, c'est comme tu veux. J'annonce un petit peu de couleur pour ceux que ça intéresse. Alors, bah, ou alors pour démarrer, on va dire, cette session, moi j'aurais envie de vous poser une question pour les personnes, s'il y a des personnes qui ont assisté au live qu'on a organisé hier soir. Donc, on a organisé un live pour commenter, discuter et questionner donc la dernière mise à jour de situation planétaire de Cobra, donc du 6 mai, puisqu'elle était assez riche encore une fois. Donc, c'était la deuxième fois qu'on organisait un live. Donc, moi, je serais intéressé d'avoir vos retours, justement. Qu'est-ce que vous pensez de la formule? Alors, moi, j'aime bien le faire parce que j'aime bien justement creuser. J'aime bien creuser les sujets et essayer de bien comprendre tout ce qu'il y a derrière. Mais voilà, j'aimerais bien avoir vos retours si vous en avez ou si vous avez des questions. Donc voilà, allez-y.
Moi, Hervé, j'ai entendu donc hier.
Alors parlez pas en même temps. Attention.
À chaque fois, je dirais que c'est un peu que des vérités. Et il y a des choses qui me dérangent un petit peu dans les versions de Cobra. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui te dérange dans ce que dit Cobra? Vas-y, c'est intéressant justement.
Moi j'ai donc, comme j'ai marqué, hein, j'ai 56 ans, j'ai toujours été connecté depuis que je me suis réincarné sur Terre. Je suis d'origine lyrienne, j'ai eu beaucoup de contacts avec des Syriens et des Acturiens avec lesquels j'ai travaillé énormément. Et tout ce que l'on est en train de vivre, je pensais qu'on l'aurait vécu beaucoup plus tôt, c'est-à-dire quand j'avais 17 ou 18 ans, hein, hélas, ça ne s'est pas fait. Mais pour en revenir à Cobra, je trouve qu'il y a quelques contradictions. Il parle de choses qui me dérangent un peu, par exemple, au niveau de certaines personnes que moi je considère de la cabale, et qui parle que, bon, il nous a parlé de notre ami Amazon, hein, comment, je ne me rappelle plus son nom. Enfin, il y a quand même des détails, trois fois, je trouve que, pour moi, il y a des choses incohérentes. Alors, est-ce que c'est fait, justement, en toute conscience, pour justement, je dirais, continuer le plan un peu secret, ou je ne sais pas, voilà. Là, j'ai des doutes.
D'accord. Alors, Cindy me rappelle à juste titre, c'est mon petit Jiminy Cricket, Cindy, excuse-moi du sobriquet, mais qu'on ne s'est pas présenté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc là, j'apparais dans le chat, on va revenir sur ce que tu viens de dire, Olivier. Donc, j'apparais dans le chat comme Révolution Vibratoire. Donc, je suis Hervé, en fait, et je gère le site Révolution Vibratoire, mais aussi Lève le Voile. Et allez-y, présentez-vous les co-animateurs. Et puis, on revient vers toi, Olivier.
Alors, moi, c'est Gwen. J'ai une chambre à Tachyon en Bretagne. Et j'ai également une sororité à la chambre à Tachyon.
Super.
Bonsoir à tous, moi c'est... J'espère qu'on m'entend bien. Donc moi je représente le réseau francophone, donc français Prepare for Change, préparez vos changements. Je gère des groupes Facebook. Je m'occupe du site français des méditations, French Wheel of Mass Meditation. Et je participe souvent en français et en anglais à des lives comme Radio Pléiade, ou les décryptages des articles de Cobra, ou les sessions de désimplantation du mercredi. Voilà.
Ok, super. Sandrine ?
Donc, moi, c'est Sandrine. Je suis méditante au niveau des méditations mondiales. Je suis de très, très près, déjà depuis quelques années, Prepare for Change et les postes Cobra. Voilà.
Ok. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de proposer de vous présenter avec l'humeur du moment. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois, c'était plutôt pas mal. Et puis là, du coup, je sais pas, j'ai perdu pied. Je me suis lancé d'entrée de jeu dans le sujet. Alors, on va, après, voilà, vous pouvez le faire justement au fil de l'eau. Et alors, pour revenir à ce que tu disais, Olivier. Oui, alors si vous ne parlez pas, désactivez votre micro, effectivement, surtout si vous n'avez pas de micro-casque. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que ce qui sort de votre amplificateur, enfin de votre haut-parleur, est réinjecté dans le micro et du coup, ça peut créer des effets Larsen ou du bruit de fond. Donc effectivement, merci de désactiver le micro si vous ne parlez pas. Donc juste pour revenir à un point que tu citais, Olivier, là, par rapport donc à la dernière mise à jour de situation planétaire de Cobra. Donc effectivement, il cite pas explicitement Jeff Bezos, il ne me semble pas. Il parle de voyage, effectivement, d'un voyage suborbital qui est prévu pour le 20 juillet, mais effectivement, c'est sa société qui est derrière. Alors, il parle aussi d'ailleurs d'Elon Musk. Il cite d'une façon générale aussi pas mal de gens. Là, il ne dit pas simplement Jeff Bezos, c'est bien. Il prend cet exemple d'un voyage spatial qui est organisé le 20 juillet pour montrer que finalement, il semblerait que. Enfin, il le prend comme un symbole. Comme quoi, il y a un assouplissement au niveau du voile qui fait que les voyages dans l'espace vont être plus faciles. Alors, plus facile, tout est relatif, sachant que, comme je l'expliquais hier, il y a une enchère qui est en cours pour pouvoir acheter justement ces billets dans ce voyage dans l'espace. Et à mon avis, ça ne va pas être donné. Ce ne sera accessible qu'à quelques milliardaires. Je ne sais même pas si les millionnaires pourront y avoir accès, peut-être. Mais ce n'est pas sûr.
Aux gens de la cabale, voilà. De toute façon. Et est-ce que ce plan est fait pour s'enfuir ou pas ? Enfin, moi, je me pose quand même des questions. Pour le rover aussi sur Mars de la NASA, là, je suis pratiquement sûr à 200% qu'il n'a jamais mis les pieds sur Mars. Donc, il y a des choses quand même un peu qui m'interloquent. Et ce n'est pas la première fois. Je trouve que ça fait depuis le début de l'année. Où il y a des choses qui me semblent un peu incohérentes, quoi, comme un peu notre prod aussi, qui est parti dans des trucs complètement dingues. Moi, c'est mon sentiment. Moi, je suis Cobra depuis pratiquement le début. J'ai jamais eu ce sentiment-là. Voilà. Mais est-ce que c'est justement parce que en ce moment, il se passe, à mon avis, des choses hyper importantes et on est en train vraiment de monter en vibration et que voir la fréquence de Schumann, etc., etc. Et puis tout le monde le sent, de toute façon, même les gens qui ne sont pas, un peu initiés comme nous, tous les gens sentent qu'il se passe quelque chose de toute façon. Il n'y a qu'à regarder la nature aussi, les animaux. Enfin, moi, j'habite à la campagne, j'ai une grande chance, et il y a des changements, effectivement. Donc, bon, c'est une aparté, parce que, moi, j'adore Cobra, j'ai toujours suivi Cobra. Voilà, ton émission hier soir est très bien. Enfin bon, je l'ai regardée ce matin, donc je n'ai pas pu être en direct. Mais voilà, c'était juste une aparté, mais je sens voilà, des petits trucs. Voilà. Mais c'est mon sentiment. Voilà.
Alors, je n'ai pas compris ce que tu as dit par rapport à Mars, où tu disais que tu es sûr à 100% que quoi ?
Il était sur Mars qui, soi-disant, va envoyer des images de choses, comment dire, de construction ou de vie sur Mars. Bon, le rover, a priori, dans mes sources, il n'a jamais quitté la Terre.
Et quelles sont tes sources ?
Et des communications, là, je peux pas. Enfin, j'ai un ami où son père est un célèbre astronaute. Qui m'a un petit peu aiguillé là-dessus. Et puis au niveau des astrales, quoi, et des canalisations de certaines personnes avec qui je travaille. Et a priori, il n'y a pas que moi qui le dis, parce que sur deux ou trois sites américains, j'ai vu qu'il y avait des gros doutes aussi du rover qui se balade sur Mars.
D'accord. Alors après, effectivement, Cobra, il n'est pas omniscient. Hein, on est bien d'accord.
C'est grave, hein, tout ça. Hein.
Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien justement la discussion contradictoire, parce que c'est souvent la lumière née d'une discussion contradictoire. Mais Cobra, il n'est pas omniscient. Cobra, c'est un homme comme toi et moi. Il a ses défauts, il a ses qualités. Alors, il a ses connexions. On a tous notre connexion. Effectivement, je pense que sur certains sujets, il s'est trompé. Sur certains sujets, il y a des contradictions. J'ai pas noté de contradictions très fortes depuis que je le suis, mais je ne le suis pas depuis le tout début, contrairement à toi. Mais en fait, moi, c'est surtout que, je dirais, mon expérience personnelle et puis mon discernement permettent de valider la majeure partie des informations. Et c'est vrai que, tu vois, moi, si je compare à du Benjamin Fulford, il y en a la moitié à mettre à la poubelle, si tu veux. Avec Cobra, il y en a peut-être un petit peu à mettre à la poubelle, mais pour moi, c'est plus de l'ordre de 10%. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas, de toute façon, il n'y a pas de source absolue de vérité tant qu'on est dans cette situation actuelle de guerre de l'information. Cobra aussi peut se laisser influencer. Cobra aussi va chercher des liens sur Internet et il n'est pas en capacité non plus de tout vérifier malgré sa connexion télépathique. Donc voilà.
Mais, entièrement d'accord avec toi. Hein. Bon, c'était pour un peu lancer le débat. Il y a quelque chose quand même qui m'inquiète. Alors, ça n'a rien à voir avec Cobra. Hein. C'est cette guerre qu'il y a entre plusieurs communautés évoluer comme nous, hein, sur Facebook ou ailleurs d'ailleurs, hein, où il y a une guerre contre Astar Sheeran. Astar Sheeran est bon, est mauvais, etc. Enfin, c'est un truc, bon, j'ai regardé un petit peu là, cet après-midi pour voir ce qu'il en était, mais c'est aberrant. C'est-à-dire qu'on est en train de diviser pas mal de gens francophone, parce que c'est essentiellement francophone, hein, cette histoire, parce que a priori aux États-Unis ou en Angleterre, il n'y a pas ce débat-là. Et ça viendrait de je ne sais pas de qui, mais en tout cas, c'est assez dur, parce qu'il y a des mots qui apparaissent comme quoi les gens sont des idiots, des abrutis, enfin voilà, il y a un truc. Donc là, je voulais le signaler, parce que surtout, rentrez pas dans ce jeu-là, quoi. Je veux dire, quelque part, on s'en fout, quoi.
Et alors, justement, il est où ce terrain de jeu, là, cette cour de récréation où les gens se créent plus chignons à propos d'Astar Sheeran? Ça se passe où?
Je ne veux pas balancer non plus nos amis qui font aussi des choses, etc. Mais bon, a priori, c'est venu d'un certain Denis Dorian et Cara, que pas mal de gens connaissent, qui ont lancé un peu cette vendetta, et voilà. Après, je l'ai suivi indirectement, moi, ce qui m'a choqué, non pas qu'on est pour ou contre, hein, ça, bon, voilà, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais c'est les termes qui sont employés par des gens qui, soi-disant, spirituels, et qui sont très, très durs envers les autres qui, soi-disant, sont pro-Sheeran et les anti-Sheeran, hein, voilà. Je dirais que là, il faut arrêter. C'est en train de diviser toutes les communautés, hein, quelque part. Hein.
Oui, voilà.
Moi, je le vois tous les jours. Hein. Alors, je n'ai pas en tête les groupes, mais c'est facile. Hein, je veux dire, il suffit de regarder un peu, on va trouver tout de suite. Hein.
Alors, j'ai pas compris qui était le deuxième nom, Cara. J'ai entendu Cara, mais ça, je ne connais pas.
C'est une jeune fille qui travaille avec Denis Dorion et qui, c'est elle qui est en contact avec les Galactiques et qui dit que voilà. Mais ils peuvent pas trop en dire hein, parce que bien sûr il y a beaucoup de choses secrètes. Enfin tout ça c'est enfin. Je ne sais pas. Bon, alors là autant, bon, Cobra, il n'y a aucune suspicion, je dirais, de ses sources, même s'il y a des petits trucs qui me dérangent, hein, mais bon, ça, c'est normal. Mais alors là, je dirais que ça me rappelle, moi, quand j'ai vécu ça, et mes premières connexions avec des groupes, surtout dans le sud de la France, hein, Villeneuve-Loubet et compagnie, où j'ai trouvé des gens aussi bien dans la lumière que dans l'ombre, mais avec toujours... On ne dit pas tout parce que c'est secret, voilà. Il ne faut pas que les gens le sachent, mais on le dit. Enfin bon, voilà, ça me rappelle un peu des trucs un peu nauséabonds.
Ouais. Ouais, et puis il y a forcément un petit jeu d'ego qui s'installe. En fait, bon, je juste. Alors par contre, Denis Dorion, je l'ai regardé un petit peu. Donc j'ai un avis, je peux donner un avis là-dessus. Donc déjà, je sais qu'il est anti-Cobra, ce qui est déjà une information intéressante.
Je sais.
Voilà, je pense pas qu'il ait évolué sur le sujet. Il est anti-Cobra, donc déjà ça voilà. Donc les informations qui vont venir de Cobra ne vont pas être forcément les bienvenues. Moi, je me souviens d'un. Alors après voilà, je le suis pas trop. Denis Dorion, il fait sans doute des choses très très bien. C'est juste que au moment où il était la grande méditation d'avril 2020. Qui a fait un buzz terrible sur Internet. Je ne sais pas si vous étiez là, je ne sais pas si vous en étiez rendu compte, mais bon, ça, elle avait buzzé. C'était un appel à la méditation mondiale, comme il y en a eu beaucoup en 2020. Mais celle-là a fait un buzz incroyable. Justement, les antis se sont emparés de ce sujet pour pouvoir essayer de grandir justement sur ce terreau de l'anti-méditation mondiale. Et donc, je crois que Denis en faisait partie, il y en a eu pas mal d'autres. Donc voilà, c'était leur posture par rapport à ça. Donc nous, on prétend à l'inverse, effectivement, que ces méditations mondiales ont un effet considérable lorsque ce sont des méditations synchronisées, focalisées avec un protocole bien défini. Je me souviens avoir entendu parler justement dans une présentation où Denis Dorion disait un petit peu de mal de Cobra et disait que une méditation super puissante, c'est la méditation du pissenlit. OK. Moi, je veux bien la méditation du pissenlit, elle a sans doute des intérêts, notamment d'initiation par rapport aux enfants ou aux personnes qui ne connaissent pas la méditation. Mais on ne peut pas comparer la puissance de la méditation du pissenlit avec la méditation, les protocoles de méditation qu'on utilise, où on se connecte à la source, on utilise le pilier de lumière blanche, la fusion à la présence, la flamme violette, etc. Enfin voilà, on ne compare pas des choses comparables. Donc après, voilà, on va pas essayer de sauter dans la cour de l'école avec eux, mais c'est clair que ça cause du tort, cette polarisation, bien évidemment, cause du tort à la communauté spirituelle. Ça apporte de la division et on n'en a pas besoin, puisque bien sûr, on est toujours dans une logique de masse critique. Et plus il y a de division, moins il y a de masse critique et plus ça profite à l'ombre, bien évidemment.
Mais tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi, Hervé. Et d'autant plus que, bon... comme tu dis, en ce moment, on a besoin vraiment de toutes les énergies possibles et inimaginables pour continuer à évoluer.
Oui, on a besoin de tout le monde parce que, bon, toi, tu dis effectivement que tu es d'origine lyrienne. On a tous des origines stellaires différentes. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi des vibrations différentes et qu'on est capable d'ancrer des fréquences qui sont sensiblement différentes les uns des autres. Et justement, et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde pour pouvoir ancrer toutes ces différentes vibrations.
Oui, tout à fait. Et je ne voulais pas dénigrer qui que ce soit, mais ça me soulage que tu aies aussi cette perception. Après, chacun. Voilà.
Ouais, donc j'avoue que voilà, moi j'étais pas au courant de ça. Et puis ce que je peux rajouter sur la thématique d'Ashtar Sheran, puisqu'on a démarré par ça. Qui suscite de la controverse. Moi, ce que je dis et ce que je répète et dont je suis fermement convaincu, c'est que En fait, il y a une hiérarchie d'être lumineux, d'être spirituel, au-delà du voile. Donc, ces fameux maîtres ascensionnés, notamment, qui aident, qui participent au plan de la libération planétaire. Mais il y a une fausse hiérarchie, une hiérarchie frauduleuse au sein de la matrice, justement, qui prend en charge la connexion avec la majeure partie des canaux, parce que la majeure partie des canaux sur la planète Terre, en fait, sont en contact, non pas au-delà du voile, mais sont en contact avec des entités à l'intérieur du voile. Et donc, si l'entité se présente comme étant Ashtar Sheran ou je ne sais trop qui, ou Maître Sananda, etc., eh ben, le canal, il va le prendre comme tel. Il n'a pas en capacité de vérifier quelle est la source. Donc, partant de là, effectivement, forcément, on va avoir un vrai Ashtar Sheran, on va avoir un faux Ashtar Sheran, et donc forcément, ils ne vont pas dire tout à fait la même chose, et forcément, ça va générer des contradictions, etc. etc. Donc voilà, on est vraiment dans une matrice qui est très insidieuse, qui est d'un machiavélisme incroyable, et c'est vrai qu'en jouant sur l'ego des canaux, on peut facilement s'amuser à faire de la désinformation dans le domaine de la spiritualité.
D'ailleurs, Cobrin nous a bien averti que pratiquement tous les canaux aujourd'hui étaient faux, pratiquement. Quoi, hein. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut plutôt se retourner à l'intérieur de nous-mêmes au niveau méditation ou énergétique que d'essayer absolument de savoir où sont faux.
Ouais, on a perdu un tout petit bout de ta voix, mais c'était compréhensible. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir sur ce sujet ? Ou bien ça vous saoule carrément et puis vous voulez qu'on passe à autre chose?
Je voudrais poser une question par rapport à Cobra, justement.
Allez, vas-y.
J'ai vu que la séquence 5 était terminée et qu'il y avait la 6 qui était en cours. Tu pourrais nous en parler, s'il te plaît?
Justement, quand il y a des codes comme ça qui sont publiés, ce n'est pas destiné au grand public et on ne doit pas, par raison de sécurité, spéculer ou dire réellement ce que ça signifie. Je suis désolée.
Ok, pas de problème.
Je suis vraiment désolée. On peut faire des spéculations dans les commentaires, etc., comme tout le monde fait d'ailleurs. Mais Cobra, et pas que lui d'ailleurs, avait bien précisé que ces codes ne sont pas destinés au grand public, ils sont destinés à des personnes ciblées parmi la population ou ailleurs d'ailleurs. Mais on ne peut pas dire ce que ça signifie, mais pour la population de surface, il y a ces mises à jour, ces demandes de méditation, etc., que nous décryptons à présent.
Alors après, c'est vrai que typiquement, là, ce sujet-là peut énerver. peut énerver la communauté spirituelle parce qu'on se dit, mais attends, mais c'est quoi là son truc, la Cobra, là, il met des codes sur son blog et c'est pas destiné au grand public, c'est juste fait pour nous agacer, pour tu vois, nous balancer des trucs qu'on comprend pas. C'est vrai que ça peut avoir un petit côté énervant, je suis d'accord. Bon, moi non plus, je comprends pas tout. Je fais partie du grand public et donc je ne suis pas capable d'expliquer ça. Je vais juste spéculer un tout petit peu, désolé Cindy, mais si on a terminé la séquence de nettoyage numéro 5, mais combien y a-t-il de séquences de nettoyage ? Y en a-t-il 6, 10, 20, 1 million ? Voilà, c'est les questions qu'on est en droit de se poser. Alors voilà, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte pas grand-chose au final. Je pense que c'est vrai que c'est surtout notre travail personnel et notre connexion qui est sur laquelle il faut travailler et que tout ça, finalement, c'est voilà, faut pas y porter une attention excessive.
Est-ce que je pourrais évoquer quelque chose qui a été dit hier soir, si vous voulez bien?
Mais avec plaisir, Mathieu.
Voilà, alors moi, ce qui m'a, j'en ai parlé tout à l'heure au téléphone d'ailleurs avec Gwen, ce qui m'a interpellé tout de suite parmi les informations qui ont été données hier soir, c'est l'histoire des 100 démons là, que nous avons tous, donc qui s'occupent de nous. C'est-à-dire que moi, en ce moment, tout particulièrement, je m'intéresse à ça parce que j'ai compris que comme on était des êtres multidimensionnels, on pouvait subir des attaques et des manipulations de nos pensées et de nos émotions. Et donc, je m'intéresse beaucoup à ce sujet en ce moment. Et moi, ça m'a beaucoup parlé et je me suis dit, mais comment c'est possible de pouvoir mettre un ordre de grandeur? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus interférés que d'autres, plus attaqués que d'autres? Ou est-ce qu'on en a tous en moyenne une centaine? Et pourquoi est-ce que lorsqu'on n'en aura plus que 10, ça sera, alors j'imagine que ça sera effectivement mieux, mais pourquoi ces ordres de grandeur, quoi? C'est ça qui m'a interpellé.
Alors pour moi, cet ordre de grandeur, cette information, elle n'est pas d'origine humaine, hein, clairement. Je ne vois pas une origine humaine nous donner ce genre d'information. Je pense que c'est sa connexion télépathique hein, qui nous donne ça. Donc ouais. Je pense que les Pléiadiens qui participent, alors voilà, on est dans la spéculation. Hein. Les Pléiadiens donc, qui sont les têtes de file en fait, de ce nettoyage planétaire et de la libération planétaire, ils voient à peu près où est-ce qu'ils en sont dans le nettoyage des plans subtils, plasmiques, éthériques et astrales et, essentiellement. Donc, ils voient à peu près où est-ce qu'ils en sont. Et puis, je pense qu'ils nous observent aussi. Et ils ont appris à mieux nous connaître avec le commande 1221 qui s'est pas mal généralisé ces temps-ci. Je pense que quand on fait un commande 1221, et justement, ils peuvent nous scanner, ils peuvent voir où est-ce qu'on en est. Et ils ont des informations, ils collectent des informations. Et je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, mais dans une des mises à jour, il a été dit que les maîtres ascensionnés ont été capables de prendre en quelque sorte des petits échantillons de la matrice. Vous savez, comme un tube à essai, là, vous allez plonger votre tube à essai dans un... Allez, je reprends mon exemple d'eau turbide, de cette eau tourbeuse, et puis vous allez après l'analyser au microscope pour voir ce qu'il y a dedans, voir les micro-organismes. Bah, d'après ce que disait Cobra, les maîtres ascensionnés ont été capables justement de prélever des échantillons de cette anomalie plasmique qui nous englobe encore. Et peut-être que justement, à travers ça, ils peuvent aussi avoir des informations plus précises que ce qu'ils ne pouvaient avoir avant, lorsque l'ombre était véritablement capable de faire un chantage systématique à la source, un chantage à la destruction planétaire, etc. Donc, voilà. Bon, je pense que c'est... Alors, cette information, c'est vrai qu'elle peut être flippante pour certains. Je ne sais pas pourquoi, moi, je la trouve limite amusante, mais je la trouve surtout, valorisante. C'est-à-dire que là, si tous autant que vous êtes, là, les 37 personnes sur Radio Pléiade, probablement que vous avez résisté pendant des vies et des vies à une centaine, voire plus, d'êtres malsains, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur carte d'identité, que ce soit des parasites ou des... Bref, des êtres qui toujours tentent de nous faire trébucher et de nous empêcher justement d'accéder à la vérité et de canaliser la lumière. Tout ce temps que vous êtes des êtres très, très, très forts. Et c'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que finalement, cette information, moi, je la trouve extrêmement valorisante, même si elle peut être extrêmement flippante pour certains. Et je pense qu'on a tous, à un moment ou à un autre de notre vie, ressenti justement cette pression un peu obscure, un peu confuse. Alors, certains sont clairvoyants, d'autres sont clairaudients, d'autres sont clairmachins, et peuvent le sentir d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que mettre un chiffre là-dessus, c'est innovant, c'est très innovant.
Je n'ai pas dit que ça me faisait peur, hein. Je suis tout à fait satisfait de ton commentaire et je pense effectivement, et j'en suis même convaincu, que on s'occupe bien de nous et que au moindre désalignement de notre ego, de notre âme et de notre esprit, les énergies se répartissent, se dispersent et ils s'en servent et puis ils nous les renvoient déformés. Enfin voilà, je pense que c'est, il y a un truc comme ça, quoi, ça c'est sûr.
Alors moi, ce que je peux témoigner, c'est que en fait, je suis intimement convaincu que les reptiliens, donc sur le plan éthérique, ont des capacités télépathiques très développées. Et d'ailleurs, donc ils doivent bien se marrer de nous parce que ils peuvent nous envoyer des formes pensées et après. Une fois que nous, on se retrouve avec ces formes pensées dans notre tête, on a l'impression qu'elles viennent de nous. Et c'est pour ça que des fois, on a des pensées qui semblent venues de nulle part, qui arrivent. Et puis, quand on ne sait pas discerner le soi du non-soi, on se laisse attraper par ça. On prend cette pensée au vol, même si elle ne vient pas de nous. Et du coup, on enchaîne sur... sur ce sur quoi ils voulaient qu'on enchaîne, par association d'idées ou par association, émotionnelle, pour nous faire basculer dans des émotions négatives, etc. Donc, je pense que, voilà, pour donner un exemple de ce que peuvent faire ces démons, entre guillemets, parce que c'est un terme très générique, je pense que l'induction télépathique, l'induction d'image mentale est quelque chose qu'ils ont beaucoup utilisé justement pour nous mener sur des chemins qui n'étaient pas les bons pour nous.
La difficulté, c'est aussi de pouvoir identifier et discerner ce qui est une mauvaise pensée ou une pensée qui ne vient pas de nous et ce qui peut être une pensée vraiment créatrice, quoi, qu'on peut avoir, quoi.
Ouais, tout à fait. Le discernement vibratoire, c'est quelque chose de très difficile, et même pour les canaux, puisque la preuve en est que même la majorité des canaux se laissent se laisse avoir. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait intervenir sur le sujet ou par rapport à cette dernière mise à jour justement de situation de Cobra ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué ? Oui.
Je suis Marie-Louise et je voudrais bien intervenir justement par rapport à ce qui vient d'être dit. Il y a eu quelque temps d'ici, j'ai fait une méditation sur la paix mondiale là, en question, en Ukraine et tout ça. Et je me suis trompée d'heure, mais je ne m'en suis pas rendu compte à ce moment-là. Donc, je l'ai faite une heure plus tôt. J'étais toujours à l'heure d'hiver. Et à un moment donné, il y a, dans ma vision interne, intérieure, j'ai vu un visage qui a commencé à apparaître. Et ce visage est devenu de plus en plus clair, de plus en plus net, et c'était un reptilien. Et il s'est vraiment très fort approché de moi et m'a regardé droit dans les yeux. Alors, j'ai pas pensé à dire commandement 12-21, mais je lui ai dit « vous ne passerez pas », etc., etc. Puis j'ai continué ma méditation et il est parti pour me rendre compte que après cela, j'ai trompé d'heure et je l'ai refait une heure après. Donc, voilà, il y a quand même des choses qui se passent effectivement. Et concernant les pensées, etc., ça aussi, c'est très clair. Je vais même dire que j'ai déjà vu une ombre comme ça rentrer dans une personne qui s'est complètement transformée. Le regard, toute sa stature s'est transformée suite à cette pénétration qui était sous une forme un petit peu de fumée. Rentrer en elle. Donc voilà, c'est vrai que et ces pensées en question, parce que je le vis aussi, je prends contact avec ces pensées-là. Et je dis, mais finalement, c'est pour me faire baisser en vibration et me donner des réactions émotionnelles. Donc et c'est pas toujours facile du tout, je vais dire, de pouvoir d'avoir le discernement en question.
Non, tout à fait. Bien sûr que c'est difficile. En tout cas, vous avez voilà, vous avez vraisemblablement un sens dominant qui est sur la vision, puisque voilà, d'autres peuvent plus sentir, ou alors sur le plan kinesthésique. Mais c'est intéressant. Et je pense que justement, justement votre témoignage, ça me fait penser à quelque chose par rapport à ce buzz justement des méditations mondiales dont on parlait tout à l'heure. Où les gens disent, mais non, on ne fait que finalement nourrir l'ombre lors de ces méditations mondiales. Et là, il y a une confusion sur laquelle je voudrais m'exprimer. Oui. C'est que, effectivement, quand on fait des méditations focalisées pour justement faire ancrer la lumière et qu'on est de nombreuses personnes à le faire, donc ça dérange forcément l'ombre. Donc, qu'est-ce que va vouloir faire l'ombre et cette centaine de démons qui gravitent autour de nous? Ils vont vouloir nous défocaliser. Ils vont vouloir nous faire oublier l'heure, comme tu le dis à l'instant, par exemple, nous faire tromper d'heure. Oui. éventuellement nous intimider, éventuellement nous défocaliser. Et en fait, c'est ce qui fait penser à certains qui ont une certaine sensibilité que finalement, l'ombre vient récupérer l'énergie des méditations mondiales. Mais c'est une erreur d'interprétation de ce qui se passe en réalité sur les plans subtils. C'est qu'au contraire, ça dérange tellement l'ombre que l'ombre est présente comme sur un champ de bataille, pour essayer justement de minimiser l'impact lumineux que nous pourrions avoir lors de ces méditations. Je le dis avec certitude, avec conviction et certitude. Pardon.
Mais je pense aussi que c'est une manière pour nous impressionner, parce que bon, depuis très très longtemps, je veux dire, je m'informe, ça fait plus de 30 ans que je m'informe sur tout ça, que je fais un travail d'introspection énorme, donc voilà, de méditation, etc. J'estime pourtant n'être nulle part, mais c'est vrai que il y a toujours, je vais dire, ce côté impressionnant. C'est comme par rapport aux extraterrestres, aux êtres interstellaires. Je vais dire, bon, on ne sait pas discerner ceux qui sont positifs et ceux qui ne sont pas positifs, ceux qui sont négatifs. Donc, on l'aurait devant soi, c'est assez difficile. Donc, il y a ce côté qu'ils essayent de prendre pour nous faire peur et nous
tout à fait.
Je veux faire perdre, Cindy, je vais dire, notre vigilance, etc.
Tout à fait. Je vois que Cindy a déposé sur le chat du groupe le lien justement de l'article que j'avais écrit à l'époque. Appel à la méditation du 4 et 5 avril, buzz, querelle et éclaircissement. Donc effectivement, c'est bien ça dont on parle. Mmh. Donc voilà, bah oui. Mmh. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir sur ce sujet.
Oui, j'appelle bonsoir. Les auditeurs.
Bonsoir Coco.
Bonsoir Hervé. J'ai fait la première méditation, en fait, celle du mois d'avril, celle que tu disais qui a fait un gros buzz. Et c'est vrai que j'ai eu deux apparitions donc au niveau intérieur, au niveau de la glande pinéale, enfin troisième œil. Et ça a été un Arthurien et Jésus. Et à une autre méditation, j'ai effectivement eu un reptilien, c'était une femme, mais elle était positive. Donc je pense qu'il ne faut pas penser que tous les reptiliens sont négatifs.
Ouais, très bonne remarque. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la série V, vous savez, c'est cette vieille série qui parle d'une invasion de la Terre par des êtres extraterrestres qui sont à l'origine, ils ont une apparence humaine et puis quand on leur déchire la peau, on voit qu'ils ont une peau de reptilien derrière. Vous vous souvenez de Diana? Je pense que, enfin, pour certains d'entre nous, cette série nous a assez marqué. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette série V? C'est que, effectivement, parmi les reptiliens, il y a quand même une majorité de méchants, entre guillemets, mais il y a aussi des reptiliens qui sont contre et qui viennent coopérer avec les humains et qui tentent de saboter justement certains des projets reptiliens. Et à l'inverse, parmi les humains, il y a aussi bien sûr des collabos. Donc il ne faut pas effectivement, rien n'est ni blanc ni noir, encore qu'il y a quand même des tendances, mais effectivement, il peut y avoir tout à fait des reptiliens positifs. Vous vous souvenez de cette série ?
Oui, j'étais fan, j'adorais cette série.
Avec le journaliste Donovan, le héros principal.
Oui, il y a une suite, Hervé aussi.
Ils ont fait la même série, mais dans les années 2000, et c'est la suite. Je crois que c'est la fille de Diana, je crois, qui est la chef, du coup. Et on retrouve Diana qui se fait tuer, d'ailleurs, parce qu'elle essaye de faire en sorte que son peuple, enfin les reptiliens, aiment les humains et se joignent à eux. Mais je crois que ça se finit par un espèce de pas d'ascension de la fille de Diana, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ça se finit plutôt bien à la fin.
Ah non, au contraire.
Ah, je ne sais plus, moi je confonds. Mais...
la deuxième série, ça finit mal.
Il y a une espèce, en anglais, on appelle ça le bliss, comme un moment de félicité de la part de. Je ne sais plus comment ça s'appelle. La nouvelle chef, mais un espèce de bliss, enfin une sensation ressentie par les humains aussi. Mais ça paraissait pas négatif sur le moment.
Je sais pas, mais moi je crois me rappeler que la fille tue sa mère, quoi.
Oui, elle tue sa mère, mais après ça continue derrière. C'est pas fini.
J'ai peut-être pas tout vu alors. Non. Désolé.
Alors, il va falloir que je m'intéresse à la suite, mais. Après, voilà, on peut être aussi dans la loi de manifestation. Ils peuvent nous proposer des scénarios justement qui se terminent mal pour les humains, pour la loi de manifestation. Plus on visualise des choses qui se terminent mal pour nous, plus ils ont de chances que ça se réalise pour eux. Enfin, vous connaissez le principe. Hein. C'est le grand principe du cinéma. Hein. C'est pour ça qu'on a toutes les rencontres IT au cinéma, à de rares exceptions, sont des rencontres négatives. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole sur ce sujet ou sur un autre ? Non, pas de volontaire.
Moi, je veux bien que tu nous reparles un peu des protocoles pléiadiens, là. Tu as fait allusion tout à l'heure à 1221, là. Alors, je sais qu'il y a le commande PB Stardust et RCV Stardust. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Et ils servent à quoi?
Alors, dans le lien, dans le chat de Révolution Vibratoire, j'ai mis un lien. Bon, il y a le 771, mais j'ai fait un petit récapitulatif des codes avec... Je ne sais pas si tu te souviens, Hervé, t'avais fait un live sur quelque chose et t'en parlais des protocoles pléiadiens. Donc, j'ai posté l'extrait en question dans l'article. Mais effectivement, il y a des articles qu'on parle dans French Wheel of Mass Meditation et l'article PFC que j'ai mis dans le chat, justement.
Merci.
Oui, tout à fait. Ouais, j'en avais parlé dans un live et puis j'ai extrait justement ce petit passage sur les protocoles de soins pléiadiens. En question. Ouais, super. Voilà, ouais, ouais. Ça dure une dizaine de minutes et voilà. C'est juste parce que je m'imaginais bien que ça, ce sujet-là pouvait intéresser en particulier. Donc c'est pour ça des fois je fais des petites découpes a posteriori de vidéos parce que tout le monde n'a pas envie d'écouter un live de 2 heures.
Des articles bien complets.
Merci. Merci, merci. Donc voilà. Donc bienvenue à Kylian. J'ai vu apparaître Kylian.
Bonsoir.
Bienvenue à toi. Donc ouais, on était toujours à discuter de la dernière mise à jour de situation planétaire du Cobra et puis tout ce qui peut tourner autour. Donc voilà, si vous avez encore des réactions par rapport à ça, n'hésitez pas. Des questions, des réactions. C'est vrai que c'est quand même, c'est assez incroyable, hein, mais bon. Enfin, je pense qu'on est même un peu fou finalement de croire à ces choses-là. Mais voilà, je pense que c'est aussi congruent avec une bonne partie de notre expérience spirituelle. C'est aussi pour ça qu'on le suit et qu'on croit aux informations qu'il diffuse.
Bah, en fait, c'est surtout, ça nous transmet beaucoup de force et ça nous permet de garder l'espoir dans le positif. Donc, je pense que plutôt focaliser sur ça, sur la force qui est transmise à nous tous qui résistons et qui voulons la paix et l'amour dans le monde.
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, Coco, c'est le petit surnom qu'on donne à Cobra. Non, je dis ça parce que c'est Coco qui parle. Enfin, en tout cas, je vois Coco dans la liste des personnes qui interviennent. Mais vas-y.
À propos de surnom, tu disais Coco, mais on a notre ami Laurent qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors lui, je crois que c'est le roi en matière de surnom pour Cobra, Cobra Chou. Il l'appelle Cobra Chou, voilà. Ah, cher ouais, Laurent, si tu nous entends, tu nous manques beaucoup.
C'est ça. Ok. Donc voilà, donc moi, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir le live d'hier. Et on essaye d'apporter plus d'informations, de faire une analyse un petit peu de justement de ce qui est dit, d'apporter un petit peu plus d'informations, une grille de compréhension. Mais on ne va pas non plus cautionner forcément tout ce qui est dit à 100%. Il y a des choses aussi qui nous dérangent, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est une source d'information, on fait avec.
Ouais, en tout cas, il y a une belle énergie qui se dégage de tout ça, donc c'est pour ça que je viens aussi. Ouais.
C'est avec toi qu'on avait dit qu'on parlerait un soir de permaculture, Kylian ?
Oui, c'était moi, justement, c'était la semaine passée, ouais.
D'accord, ouais, ok, ouais, faudra qu'on...
Mais il n'y a pas d'urgence, hein. En fait,
non.
C'est la résilience de la nature autour de nous, constamment, tout le temps, ouais.
Tout à fait.
Mais du coup, juste pour, peut-être que j'arrive après la tempête, mais du coup, qu'est-ce qu'il a été dit en fait d'important sur.
Alors, est-ce que quand tu te branches sur France Inter et que tu as raté le programme d'avant, est-ce que
non,
tu peux
non.
demander ? Non, je plaisante. On parlait justement de cette mise à jour de situation planétaire. Et du fait aussi, c'est Olivier qui a amené sur le tapis le fait qu'il y avait une guéguerre parmi les gens qui sont du domaine de la spiritualité, justement autour d'Ashtar Sheran. Est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux? Enfin bon, mais ça c'est pas vraiment nouveau. Et puis voilà, et puis on a enchaîné sur cette mise à jour de situation planétaire avec ces 100 êtres démoniaques qui nous tournent autour, qui fait que finalement nous avons une très grande force sans le savoir. Et voilà, donc pas beaucoup plus que ça. Après, si tu veux en savoir plus, effectivement, tu pourras écouter le replay qui sera mis dans le groupe tout de suite après la fin de l'enregistrement.
D'accord, merci. Et du coup, on se dirige vers un magnifique futur, en fait, enfin un magnifique présent, si on s'y met tous.
Ouais, tout à fait. Et justement, ce qu'on disait, c'est que la désinformation dans le monde de la spiritualité et la bataille d'ego est là, bien sûr, pour nous diviser et faire en sorte qu'on ne s'y mette pas tous. Et donc, perdre encore du temps par rapport à ce retour de la lumière.
Ah, mais ça, c'est dingue, hein. L'ego, en fait, même si il y a toujours un moment où il faut qu'il ouvre sa gueule. Hein. Pardon, mais.
Non, non, non. Mais oui, mais de toute façon, tant qu'on est dans cette situation, enfin, enfin qui peut dire qu'il n'a pas d'ego? Je veux bah,
bien sûr.
Est-ce que quelqu'un parmi vous n'a pas d'ego, s'il vous plaît?
Non.
Non, mais je sais pas, posons la question. Peut-être que quelqu'un va nous dire oui, moi je suis prêt à l'entendre. Ce n'est pas une question pire. Non, non. Laïla?
Oui, ce qu'il y a, c'est que, bon, la définition de l'ego doit être beaucoup plus clarifiée pour savoir si on est égaux. Quand vous dites ego, c'est égoïste, n'est-ce pas?
Non, non, non. Non, non,
non. C'est pas l'égoïsme. Non,
non, en fait, ça peut rejoindre l'égoïsme, mais ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt la partie mentale.
C'est une fierté de soi-même.
C'est l'image mentale factice, en fait, qui est figée, quoi. C'est, et qui s'attache au « moi, je ».
Ben oui, « moi, je ». Ça veut dire qu'on parle toujours de soi-même.
Non, pas nécessairement. Mais ça veut dire qu'on s'identifie à cette personnalité que nous avons dans la matrice, on s'identifie à elle, et c'est vrai qu'on a tendance justement à se mettre en avant ou à vouloir avoir raison, surtout.
Voilà.
Mais ce n'est pas de l'égoïsme à proprement parler.
Il y a la soif de reconnaissance aussi.
Oui.
L'ego mental, l'ego spirituel aussi. Voilà. La soif de reconnaissance, d'attirer l'attention sur soi. Je suis le meilleur, etc.
Mais de toute façon, l'ego, on ne peut pas s'en débarrasser. Hein,
pardon, j'ai pas entendu Kylian.
J'ai dit, en fait, l'ego, on ne peut pas s'en débarrasser, mais on peut apprendre à vivre avec. Ouais.
C'est un peu la partie de soi sur laquelle il faut travailler. Voilà, exactement.
Oui, oui.
Faut-il distinguer la personnalité de la personne dans son intégralité?
C'est bien dit ça.
Merci. Oui, alors je ne sais pas ce que tu appelles la personne dans son intégralité, mais justement, nous, on dit...
La personnalité, ça se limite à l'ego, avec les corps énergétiques les plus denses. Et la personne, c'est l'ego, l'âme et l'esprit, alignés.
Non, mais c'est bien de repréciser les définitions parce qu'on n'a pas tous les mêmes définitions par rapport aux mots. Donc, effectivement, voilà, quand tu redéfinis les choses, du coup, j'ai tendance à être d'accord avec toi, effectivement.
Oui, c'est ça, les définitions.
En fait, si je peux ajouter quelque chose, c'est que l'ego, c'est ce qui nous fait mal, en fait.
Oui, c'est vrai, ça.
Mmh. Il croit faire pour notre bien. Il croit toujours faire pour notre bien, mais c'est celui qui nous fait le plus de mal dans ce monde.
On t'entend ouais, assez vrai. Faiblement, Alice, mais c'est encore du... Si tu peux te rapprocher peut-être un peu du micro.
C'est vrai, là, tu m'entends mieux comme ça?
Ouais, c'est mieux, ouais.
Voilà, je dis juste que c'est celui qui nous fait le plus de mal dans ce monde, en fait. Il agit pour notre bien, il croit agir pour notre bien, mais c'est ce qui nous fait mal. Voilà, ça ne nous fait jamais du bien, l'ego, en fait.
Ouais, surtout si on s'identifie, quoi.
Ouais, puis là, depuis tout à l'heure, j'entends, c'est quand on dit moi, je, qu'on ramène tout à soi, qu'on veut avoir raison, etc. Donc oui, effectivement, ça, c'est l'ego qui veut avoir raison. Mais il y a aussi une partie qui n'est pas forcément comme ça, mais où l'ego va souffrir, ou va nous faire souffrir quand même, par le biais d'autres choses. C'est-à-dire qu'on va avoir une espérance vis-à-vis de l'extérieur qui n'arrive pas et du coup qui nous fait du mal, et ça c'est encore l'ego qui agit sur ces trucs là et c'est pas qu'on veut se mettre en avant, c'est juste qu'on souffre de ne pas avoir l'extérieur comme on l'aurait imaginé ou espéré.
Ouais, les attentes, en fait. Ben, ça rejoint beaucoup le mental, en fait,
c'est ça. Ouais,
ouais. Ben, en fait, aujourd'hui j'ai un exemple. Ah oui, je jouais à un jeu vidéo, puis tout d'un coup j'arrête de gagner, puis hop, je commence à m'énerver là.
Et
bah justement, après, je me suis vite rendu compte que j'étais là, oh, faut que je me calme, je commence à être dépassé.
Bonjour. Alors,
je ne sais pas si c'est de l'ego ou si c'est de l'addiction là.
Salut,
je trouve que c'est un mélange.
Bonjour. Ouais, je trouvais que, bah, en fait, presque, si, parce que là, ça, c'est vachement passionnant ce que, cette discussion. Je viens d'arriver. Merci beaucoup pour ce groupe. Merci de m'accueillir ici. Mais, pour l'ego, moi, j'ai l'impression que presque on pourrait dire que même l'ego, c'est la souffrance. Parce que la souffrance, finalement, c'est de lutter contre la vie. Et c'est, il me semble, hein, j'ai l'impression, et c'est de, comme, c'est comme, c'est comme d'esclaver le flot de la vie et qu'on veut contenir, on veut bloquer, on dit non finalement. Parce que la vie, c'est un grand oui finalement, c'est une nudité absolue, c'est une vulnérabilité absolue. Et souvent, on veut se protéger, donc on dit non, et donc on souffre, mais cette souffrance, c'est la recherche. Le désir, la souffrance, c'est la même chose. C'est parce qu'on recherche qu'on ne peut pas trouver. Parce que finalement, si on recherche, c'est qu'on dit non à ce qui est. Et si on dit non à ce qui est, forcément, on fait l'expérience que ce qui est, c'est pas suffisant. Et donc, on souffre. Il me semble.
Oui, c'est magnifique. C'est un peu ouais, l'attachement. Ouais.
Alors, Alice, justement, tu as pris la parole, mais je voudrais peut-être t'amener sur le sujet du livre que tu as écrit. Peut-être.
Alors, moi, si je peux dire un truc, il faudrait éteindre les micros de ceux qui ne parlent pas parce que là, ça pollue toute l'écoute de chacun qui parle.
Absolument, je confirme. Alors, ceci étant, maintenant, alors Alice, je te rappelle, voilà, est-ce que tu souhaiterais prendre la parole? Parce que je trouve que tu as quand même une expérience assez intéressante. Tu as écrit un livre sur la spiritualité. Enfin, non, disons sur ton expérience des mondes sensibles, des mondes invisibles. Est-ce que ça te dirait d'en parler?
Je peux toujours en parler. Après, je ne sais pas exactement comment le faire, étant donné que c'est un livre. Donc, si je dois exposer toute l'histoire, ça va prendre du temps. Et si j'en parle trop brièvement, voilà. Donc, j'ai toujours un peu de mal à en parler, mais je peux le faire.
Essaye de trouver un juste milieu.
Je peux essayer de faire ça. En fait, c'est un livre qui est écrit à la première personne, donc qui expose mon vécu sur une année. L'année 2015, et en gros, c'est écrit très simplement pour ouvrir une porte entre les croyants et les non-croyants, pour amener peut-être les gens qui sont complètement paumés dans leur vie à cette idée que tout est possible à chaque instant dans leur vie, en fait, et que leur intuition, l'invisible, en fait, on peut l'appeler comme on veut, hein, tous les petits signes qu'on peut avoir de l'invisible, ou on peut appeler ça tout simplement notre propre cerveau qui crée des choses pour, parce qu'après chacun a ses croyances par rapport à tout ça, mais en tout cas ça, cette chose là si on suit ça, et ben ça nous apporte que du bien, en fait. Donc voilà, j'ai écrit sur ça en exposant donc toute une série d'événements que j'ai vécu qui étaient invraisemblables. C'est-à-dire que j'ai un don pour ça, pour vivre des trucs invraisemblables. Mais l'année 2015 a été particulièrement impressionnante, on va dire, même pour moi. Et du coup, arrivé en fait de février à avril, ça a été claque sur claque sur claque. Et donc, en avril, je me suis dit, bon, allez, vas-y, j'écris un bouquin parce que là, c'est pas possible, je peux pas faire autrement que de ne pas partager ça. Voilà. Donc après, si je dois rentrer dans les détails de ce que je dis dans ce livre, ça va être plus long, mais en gros.
Alors, pas forcément les détails, mais je sais pas, peut-être nous donner quelques indices, quelques révélations, enfin des choses qui pourraient nous donner envie d'aller le découvrir d'ailleurs. Et si tu peux donner les références, peut-être que ça peut intéresser.
Oui, je peux donner ça. Alors du coup, ça s'appelle « Va trouver », trois petits points, avec en dessous « Synchronicité vécue volume 1 ». Et mon nom, c'est Alice Ejna, H-E-J-N-A. Et donc, c'est sur Kindle Amazon. Je suis désolée, mais il n'y a que ce biais-là que j'ai pu trouver pour faire éditer mon livre. Et donc voilà. Donc, en gros, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, j'ai fait d'abord un rêve qui me disait... Enfin, je me souviens très rarement de mes rêves. Et donc, au réveil, j'avais un souvenir visuel où j'avais un papier dans les mains qui me disait d'aller trouver une personne avec, évidemment, le nom de la personne dont je me souvenais, que je ne vais pas dire là parce que ça ne sert à rien. Un nom très bizarre. Et donc, il y avait écrit en anglais « Go find cette personne. Va trouver ce mec-là. » Et donc, je regarde sur Internet qui est cette personne et je tape le nom. Et en fait, je tombe sur le vrai nom d'un acteur connu mondialement que moi je connais pas en fait parce que je m'intéresse pas trop à ça et donc je regarde les films qu'il a fait et c'est que des films dont on m'a parlé mais depuis le lycée on m'a dit faut que tu regardes celui-là et que j'ai jamais regardé parce que bah ça s'est pas présenté quoi et donc bon voilà je vois ça et puis bah je repars dans ma vie parce que j'ai pas que ça à faire en fait et le rêve revient. Et là, en fait, je décide de demander au-dessus, vas-y les gars, ok, je veux bien le trouver, mais je cherche où en fait ? Je vais dans la forêt, je vais creuser un trou quelque part, il sera là, je sais pas. Et donc là, la personne, en fait, à partir de là, tout s'est mis en place pour que je me retrouve à New York devant cette personne 2 semaines après. Mais tout s'est mis en place. Je peux même pas. Voilà, ben, je l'ai écrit dans le livre. Donc après, si ça vous intéresse de savoir la suite des choses, c'est voilà.
Mais c'est qui l'acteur ? C'est Georges Clooney ?
Non, c'est un mec qui a mon âge et qui est né. Enfin, je suis né le 18 décembre, il est né le 19, etc. Enfin, il y a que tout un tas de trucs très très proches. Et donc, je ne vais pas parler de cet acteur-là dans l'émission parce que ça sert à rien. Si vous voulez lire le livre, allez-y. Mais je suis pas là pour faire. De la pub pour ce mec et puis en plus de ça je parle pas de lui en fait je le cite mais il a rien à voir là-dedans en fait enfin c'est moi qui ai pris l'initiative d'écrire ce bouquin et donc voilà même si je dis des choses c'est que le fruit de mes propres réflexions doutes et compagnie quoi
donc mais ça... alors qu'est-ce que ça a engendré cette rencontre parce que c'est ça qui est intéressant justement si cette rencontre a été voulue dans les plans subtils, c'est que ça a dû engendrer quelque
chose. Mais en fait, moi j'ai une suite à ce bouquin parce que ça s'est terminé. Le bouquin, c'est toute l'année 2015, donc ça se termine sur les attentats parisiens, en fait, où moi j'aurais dû être au Carillon ce soir-là. Et en fait, j'ai été guidée, hein, clairement. Je suis très verbale, moi, dans mon. Tu parlais de clairvoyance, clairaudience et le machin. Moi, c'est les mots, en fait. C'est des phrases, des mots. Ça me vient, mais pff, comme un... Voilà, c'est vraiment... Et quand c'est vraiment une intuition, un truc qui vient d'ailleurs, je sais que c'est clairement pas juste ma pensée. C'est un truc qui, bam, vient dans mon cerveau. Et en fait, le soir des attentats, je devais donc être au Carillon avec un pote. Et juste, quoi, aller une demi-heure avant d'y aller, j'ai un flash comme ça... Amène ton chien chez ta mère. Et je sais pas pourquoi, parce que c'était donc le vendredi soir, j'avais des cours le samedi matin. Jamais je vais en Normandie faire un aller-retour comme ça, machin. Et en fait, j'ai juste suivi. Comme je le fais toujours, quasiment, j'ai suivi. Et en fait, bah, dans le RER, j'ai une pote qui m'a appelé. Ouais, t'es où, machin. Et il y avait les attentats. Donc le bouquin se termine là-dessus, sur un truc un peu ouvert. Et la suite de la rencontre et de ce que ça a pu apporter, cette rencontre. Cette reconnexion ou cet appel ou ce que tu veux, je l'ai eu après le bouquin. Donc, il y a un volume 2 qui est censé sortir un jour. Mais en gros, si je peux en parler un peu, ça parle de flammes jumelles, cette reconnexion, en fait. Quand on s'est vu, ça a été un moment... incroyable, qui a duré, pour moi ça a duré 1000 ans, enfin, c'était vraiment un retour à la maison, c'était un regard complètement ahuri, enfin, on était tous les deux comme des cons, et en fait c'est tout, parce que le mec, moi je le connais pas, bref, et la suite, j'ai eu mes réponses par différents biais, et notamment l'hypnose de régression, en fait, et donc, les deux incarnations, la mienne comme la sienne, sont là pour guérir des choses dans notre milieu dans lequel on est arrivé, en fait, clairement. Donc moi, dans ma famille et tout l'entourage, et lui, pareil. Et en gros, cet appel en 2015, c'était parce que il y avait des désirs de suicide, mais des grosses pensées de ce type-là, en fait, qui traînaient autour de lui et de moi. Et donc, cette reconnexion, elle était là pour dire « Oh là, les gars, vous avez autre chose à faire, là. Vous avez du taf, quoi. » Voilà. En gros, c'est ça. Après, je ne peux pas en dire vraiment beaucoup plus. C'est-à-dire que, comme c'est un acteur très connu et qu'il est né dedans, dans des sphères très sombres, en fait. Il est entouré de trucs très, très sombres. Donc, même si lui est lumière, il combat un truc un peu ardos, quoi. Et donc voilà, après ce que ça m'a apporté à moi, c'est bah voilà, tout ça fait grandir encore plus mon éveil spirituel et ma reconnexion à moi-même, en fait, finalement.
Mais alors, tu donnes son nom quand même dans ton livre, c'est ça?
Ouais.
Bah, ah, c'est un bon sens du marketing, là. Ça donne envie d'aller voir, hein, parce qu'on a vraiment envie de savoir.
Sérieusement, quand je regarde, parce que je suis pas très, j'ai jamais été fan de, pourtant je fais de la musique, mais j'ai jamais été fan de personnages, en fait. J'ai aimé des musiques et des acteurs ou des films, mais j'ai jamais été fan de ces personnages. Et quand je regarde un peu tout l'ensemble de, je connais pas tous les acteurs du monde non plus, mais en tout cas quand je regarde tout ce que je connais dans ce milieu-là, vraiment ça aurait pas pu être quelqu'un d'autre, en fait. Ça aurait pas pu être, quand je suis arrivée, en fait, devant l'endroit où il était, c'était un théâtre où il jouait une pièce qui s'appelle Constellation. Et dans cette pièce, c'est une pièce qui raconte par le biais de... En fait, chaque scène, ils sont deux sur scène, c'est un couple qui se rencontre. Et à chaque scène va se rejouer 3, 4, 5 fois avec un mot qui change ou une tournure, juste un petit truc qui change. Et en fait, ça expose, toute cette pièce, elle expose le fait que bah, tout est possible à chaque instant. Et ça, mais en fait, honnêtement, ce mec, il a fait des films de malades qui parlent de voyage dans le temps, qui parlent de portail, qui parlent de... Enfin, ça aurait pas pu être un autre acteur, en fait. C'est un truc de ouf quand je revois tout le truc. Parce qu'après, du coup, je les ai vus, ces films. Du coup, après, je me suis un peu intéressée au personnage. Mais ouais, c'est assez impressionnant comme rencontre, en tout cas.
Alors, tu parles de flammes jumelles, ça me donne envie de parler d'une chose, justement, puisque, bon, forcément, dans cette radio Pléiade, on va être amené à parler beaucoup de Cobra d'une façon générale, puisque Cobra est un pléiadien, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. C'est qu'en fait, ce qu'il dit à travers sa connexion, c'est que, des flammes jumelles ne peuvent, a priori, pas se rencontrer dans la matrice, parce que cette reconnexion serait beaucoup trop puissante et pourrait à elle seule en fait mettre un terme à la matrice.
Je peux te dire que le regard qu'il y a eu là quand on s'est vu, ça a été juste un truc de malade, en fait.
Attention, justement, laisse-moi terminer. Moi, je ne conteste pas la puissance de la connexion que tu as pu avoir avec cet acteur.
C'est juste pour te dire qu'on n'aurait peut-être pas pu aller plus loin que ça, que ce regard, en fait.
Ah oui, d'accord.
Je confirme ton truc, en fait, je confirme.
D'accord. Mais en fait, nous, ce qu'on a constaté aussi, c'est que en réalité, y a beaucoup de fantasmes autour de la flamme jumelle. Le terme lui-même de flamme jumelle, c'est un terme très marketing. On pourrait parler âme jumelle, mais flamme, ça brûle mieux de la passion. Donc forcément, c'est mieux, c'est sympa, ça fait rêver tout le monde, surtout les femmes, et du fait des implants. Mais en réalité, il faudrait plutôt s'intéresser aux reconnaissances d'âme. Parce que je pense que, et je suis assez d'accord avec ça, je pense que la matrice s'est arrangée pour que nous ne puissions jamais rencontrer notre âme jumelle. D'ailleurs, il est assez rare d'ailleurs que deux âmes jumelles se retrouvent dans la matrice. En général, il y en a une à l'intérieur et une à l'extérieur. Comme ça, au moins, on est sûr qu'elles ne se rencontrent pas. Et par contre, il y a aussi, je parlais de reconnaissance d'âme, mais il y a aussi la notion de famille d'âme. La famille d'âme, c'est encore autre chose et c'est pareil. Ça, c'est des êtres avec qui nous avons évolué pendant des millions d'années, mais en dehors de la matrice. Par contre, la reconnaissance d'âme, et c'est là où je veux en venir, et c'est là, c'est une chose qui est beaucoup plus courante, et je suis désolé, je vais peut-être casser un mythe ou je ne sais quoi par rapport aux flammes jumelles. Après, voilà, prenez-le comme une opinion. La reconnaissance d'âme, c'est quoi? C'est que on a tous de multiples incarnations dans la matrice et on s'est retrouvés. Alors, c'est un petit peu le film Cloud Atlas. Je sais pas si vous le connaissez. On s'est tous retrouvés dans des situations différentes, dans des périodes différentes, parce que on a des affinités au niveau de nos âmes et on a vécu des choses en commun. Alors, une fois, on a pu être conjoint, une autre fois, on a pu être parent, enfant, une autre fois, on a pu être ennemi juré. Enfin, bref, on se retrouve dans des situations différentes pour des résolutions de karma entre guillemets. Et justement, ces reconnaissances d'âme peuvent être prises, à mon sens, justement, pour des reconnaissances d'âme jumelle, parce qu'on préfère croire, ça nous fait du bien, et si ça nous fait du bien, tant mieux, qu'on rencontre notre âme jumelle.
Moi, je crois pas que ça puisse se confondre. Hein. Après, peut-être que les gens, effectivement, ont comme une fantaisie là-dessus et ont un désir de... Enfin, je sais pas quoi. Mais je pense pas que ça puisse... Enfin, je comprends ce que tu dis. Effectivement, oui, on croise des gens qu'on a déjà connus dans d'autres vies ou d'autres... voilà. Mais là, en plus de ça, moi, le mot flamme jumelle, c'est pareil, je suis pas tellement fan. En fait, moi, ce que j'ai eu la première réponse que j'ai eue par rapport à ça, c'est que c'est un jumeau karmique. Donc, c'est pas vraiment de la flamme jumelle. Enfin, après, ça, c'est un mot, encore une fois, comme tu dis, qui fait un peu rêver, machin. Mais quand tu... Enfin, comment dire, c'est mon expérience encore hein, qui parle. Ce regard-là que j'ai vécu, il est pas... Tu peux pas le confondre avec autre chose. Et ça peut pas être genre juste un truc cool et machin. Non, non, c'est d'une violence. Enfin, c'est d'un... Waouh, ça...
Bah, le regard, ça ment pas, hein, c'est sûr.
Mais alors, et qu'est-ce que c'est le jumeau karmique? Qu'est-ce que tu peux préciser, Alice?
Bah, préciser, moi, je suis un peu aussi, j'y vais un peu à tâtons dans ces trucs-là, parce qu'il y a un peu toutes les définitions et n'importe quoi. Moi, je pense que surtout une âme avec laquelle j'ai fait un pacte. Avec qui j'ai fait un pacte, encore ça peut sembler un peu sombre comme mot, mais c'est une âme, soit c'est une âme qui s'est divisée en deux pour s'incarner ici, mais j'ai des doutes, enfin je suis pas tellement fan non plus de cette idée là, soit c'est une âme avec qui j'ai vraiment un lien très très fort et avec qui on s'est promis de mener à bien telle mission ou de s'incarner pour faire tel truc ou de voilà, mais en aucun cas de se retrouver pour faire des bébés et je sais pas quoi. Enfin ça c'est là les flammes jumelles qui pensent qui relient ça à âme sœur ou à un truc d'amour et machin de couple. Non, je crois pas que ce soit c'est divin en fait comme expérience. C'est plus divin qu'autre chose, donc ça a pas tellement de... Ça n'a pas un côté. Enfin voilà, je sais pas comment. Je ne saurais pas en dire plus, quoi. Voilà, après, chacun chemine comme il peut et se fait ses définitions aussi. Je pense que là, pour le coup, oui. On est sur des trucs tellement divins que pour les définir et pour les expliquer, voilà, quoi.
Toujours dur d'expliquer. Est-ce que je pourrais juste ajouter un opinion? Enfin, c'est un opinion et c'est une question ouverte aussi. Parce que c'est vrai que, comme tu disais avant, en fait, pour la flamme jumelle, c'est vrai que si on se rejoint en fait d'un coup sur la planète Terre, c'est tellement dense que ça peut créer beaucoup de choses d'un coup, trop puissantes. Moi, je pense que l'amour, en fait, l'amour créateur, en fait, ben, quand un homme rencontre une femme, ou bien même autre chose, en fait, je pense que cet amour puissant, s'il est vraiment puissant, c'est un amour nouveau. En fait, c'est un amour complètement nouveau, parce que sinon, c'est pas possible d'aller de l'avant, en fait, si c'est pas une nouvelle âme, une nouvelle personne, quelqu'un de nouveau qui arrive dans notre vie. Je pense que c'est une opinion, mais je pense que si on veut construire un monde nouveau, je pense que c'est important qu'on rencontre des personnes nouvelles, parce que sinon, si on va tout le temps dans notre passé, on rencontre on retrouve des gens qui étaient dans notre tribu, etc. Moi, j'ai des exemples, par exemple, avec que ce soit des enfants qui sont dans mon quartier, je les regarde dans mes yeux et je dis « Ah, mais toi, tu étais dans ma tribu il n'y a pas longtemps. » mais par exemple, je pense que si je vais rencontrer une femme, j'ai envie que ce soit une femme avec qui je peux construire un futur, en fait, que je n'ai pas encore rencontré. Que ce soit l'inconnu, quoi, un peu. Je ne sais pas si vous rejoignez un peu cette pensée.
Je peux intervenir, car ce sujet, je l'ai étudié il y a 30 ans, en interrogeant et en mettant en régression donc des centaines de personnes. Et une seule chose est apparue, c'est que toutes les personnes sont bien sûr interconnectées entre elles, mais surtout dans nos vies, on revit toujours avec les mêmes personnes. Je suis désolé de dire ça, mais je n'ai jamais trouvé autre chose que ce tissu, cette toile d'araignée qui fait que tous les gens que l'on rencontre en bien ou en mal, c'est des gens avec qui on vivait, ou en tout cas on avait un contact avant. Et le truc le plus incroyable, c'est que souvent, les gens se reconnaissent, bien sûr, mais en plus, je dirais, comment dire, c'est très dur à expliquer, mais cette sensation de retrouver ou de connaître, et là, bien sûr, et en même temps, je ne dirais pas que c'est planifié, mais en même temps, quelque part, c'est fait pour qu'on se retrouve et qu'on fasse plus qu'un, parce qu'au départ, on est un. Et je me suis aperçu, on s'est aperçu à l'époque, avec tous les gens avec qui on travaillait et on faisait ces expériences, entre guillemets, que finalement, tout ça, c'était pour reconstituer l'être divin qui était éparpillé partout. Et la chose aussi incroyable, c'est que ces parties-là n'étaient pas forcément que sur Terre. Et c'est là où j'ai découvert, moi, mes origines lyriennes, hein, et bon, d'autres, c'était syriens, beaucoup d'acturiens qui sont en relation aujourd'hui avec la tribu. Qui sont réincarnés en ce moment, d'ailleurs. Enfin, bref. Et je suis désolé, Kylian, mais le fait
okay,
de trouver la nouveauté, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. C'était une petite aparté.
D'accord. Mais toi, tu penses, par exemple, si un homme et une femme se rencontrent pour générer du nouveau, parce que la vie, elle va quand même, en fait, générer du nouveau, même si le passé est présent, toujours présent. Mais genre l'ADN, par exemple, il est toujours réécrit avec des nouvelles mutations, etc. Et je pense qu'il y a un principe qui est similaire, peut-être.
Une analyse, une étude qui a été faite par National Geographic, où ils ont prélevé l'ADN de tous les humains sur Terre qu'ils ont pu trouver, aussi bien en Amazonie, au fin fond de l'Australie, de l'Afrique, etc. Et la chose incroyable, c'est qu'on est arrivé où on était tous de la même souche. Voilà. Et je pense que c'est assez intéressant tout ça. Moi, je pensais aussi qu'il y avait quelque chose à découvrir. Et finalement, non, il y a la découverte, finalement, on l'a déjà. Et on est juste coincé dans cette matrice ou peut-être en tournant rond, quoi, hein, finalement.
Mais tu penses que cette matrice, justement, a un rôle évolutoire, en fait ? Je pense qu'il y a un rôle évolutoire.
Non, je pense qu'au contraire, en fait, matrice est justement un rôle pour nous garder, justement, dans ce système qu'on appelle réincarnation et qui est là pour qu'on la serve, tout simplement. Hein.
Mais
malgré
du coup,
de temps en temps, la matrice n'est pas parfaite. La preuve, hein, c'est que nous sommes là et qu'on essaye d'évoluer. Mais voilà. Mais non, cette matrice-là est négative de toute façon. On le sait.
Alors oui, je pense que sur ça, on est d'accord. Mais bref, il ne faudrait pas qu'on s'écarte du sujet. Si jamais il y avait un sujet qui était vraiment propice à cette discussion. En tout cas, voilà, je voulais juste apporter cet aparté. Et merci Olivier d'avoir de ton intervention.
Alors moi j'aimerais qu'il y ait une personne qui s'exprime justement sur ce sujet des flammes jumelles, là, donc Donc, on est parti du livre d'Alice. Donc, on a un tout petit peu dérivé, mais justement, est-ce que quelqu'un souhaiterait s'exprimer là-dessus? Parce que, voilà, peut-être qu'on a dit des choses qui vous ont déplu ou qui ont heurté vos croyances, ou peut-être que vous allez dans le même sens, j'en sais rien. J'aimerais bien avoir d'autres opinions. N'hésitez pas à prendre la parole. Sinon, vous prenez le risque que je vous cite nominalement.
je vais prendre la parole. Ben, moi, je rejoindrai un peu ce qu'a dit Alice. Déjà, moi, je me suis rendu compte que beaucoup de mes relations amoureuses étaient karmiques. Donc là, on ne parle pas de flammes jumelles. Par contre, effectivement, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça a été très fort. Et ce que j'ai eu l'impression, c'est d'avoir été divisée. C'est-à-dire que dans une vie passée, lui et moi, on n'était qu'une seule personne.
Intéressant. J'ai rien dans mon expérience personnelle qui pourrait me faire dire ça. Par contre, j'aurais des choses à dire sur le sujet des jumeaux perdus, qui est finalement quelque chose de beaucoup plus répandu que ce qu'on imagine. Alice, tu voulais prendre la parole?
Ouais, mais en fait, non. Enfin, tout va bien.
Ouais. Parce que, alors, moi, ça, c'est pour moi, c'est un peu une révélation assez récente. J'ai fait une sophro-analyse, donc avec une personne, je pense, qui, très, a posteriori, me paraît très compétente. Et elle m'a sorti le truc comme quoi j'avais un jumeau perdu. Alors, le jour où j'ai fait ma sophro-analyse, j'avoue que ce concept était un petit peu nouveau pour moi. Je n'ai pas bien compris de quoi elle parlait. Et puis, j'ai écouté les gens autour de moi et tout. Et puis, j'entendais finalement qu'il y avait plein de gens qui avaient des jumeaux perdus. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de tout, on aurait tous des jumeaux perdus, mais c'est quoi? C'est bizarre, comme si toute femme enceinte avait d'office des jumeaux. Et puis, il y en avait toujours un qui partait au dernier moment. Enfin bon, sauf des exceptions où il y a des vrais jumeaux, mais ça reste finalement l'exception. Donc ça, il y avait quelque chose qui résonnait pas en moi par rapport à ça et je comprenais pas bien. Et en fait, je pense avoir eu la réponse justement à travers un rêve assez fort, où en fait, en réalité, je suis désolé, mais là, je vais vous amener profond dans la matrice. Je pense que la logique du jumeau perdu est une logique qui est utilisé sciemment par la matrice pour créer dès la naissance un premier traumatisme. La matrice, en fait, se caractérise justement par l'industrialisation du traumatisme, la systématisation du traumatisme, et notamment pour ceux qu'on appelle les travailleurs de lumière, pour qu'ils ne soient pas en capacité justement de faire leur travail. Et justement, cette notion de jumeau perdu, c'est quoi? C'est une âme avec laquelle vous connaissez bien, vous êtes des potes, vous êtes, enfin voilà, c'est pas forcément, enfin c'est pas une notion de flamme jumelle, ni d'âme jumelle, peut-être de reconnaissance d'âme, mais en tout cas c'est une âme qui a vécu des choses avec vous et qui est proche de vous et avec laquelle vous vous sentez bien. Et ce mécanisme de jumeaux perdus, à mon sens, encore une fois, je le présente comme une opinion, je ne veux pas la présenter comme asséner une vérité, mais pour, à mon sens, justement, est là pour générer un premier traumatisme cardiaque, au niveau de l'émotionnel, au niveau dès la naissance, pour que justement la puissance de notre cœur soit amenuisée dans notre vie. Et peut-être que cette notion de jumeau perdu pourrait expliquer la sensation d'avoir été une personne. En fait, c'est de là que je suis parti. Donc, tu parlais tout à l'heure de la sensation d'avoir été une personne et d'avoir été divisé. Pour moi, c'est plutôt cela que ça évoquerait plutôt que d'avoir été véritablement une seule personne divisée dans la matrice. Ça me parle pas trop. Et j'avoue que cette notion de germe cosmique ou d'œuf cosmique primordial, pour moi, celui-là, il date de millions, peut-être même de milliards d'années, lorsque nous avons émané de la source, mais certainement pas de toutes ces pérégrinations dans la matrice.
C'est super intéressant.
Je te remercie.
Oui, effectivement.
Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir sur ce sujet ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Effectivement, moi, j'aimerais beaucoup intervenir là-dessus. Alors moi, je me souviens avoir choisi ma famille avant de naître. J'ai la vision, je me souviens. Et il y a peut-être 3 ans de ça, j'ai fait un soin chez un couple où effectivement, à un moment donné, il est intervenu en me disant « Tiens, c'est curieux, j'avais jamais ressenti ça. » Donc, il a fait mon nettoyage et à la fin de la séance, il m'a expliqué. Et je lui ai posé cette question, mais qu'est-ce que vous avez vu ? Et il me dit que, en fait, pendant ce soin, il a vu que c'était la première fois qu'il avait ressenti le fait qu'il y ait eu une anomalie, en fait, entre à la période de fœtus, dans le ventre de ma mère. Et effectivement, moi, je me suis souvent sentie seule enfant et j'ai toujours rêvé d'avoir une sœur jumelle. J'ai un prénom composé. Et il y a 2 ans, j'ai eu un petit souci de santé. Enfin, bon, j'ai fait une fausse couche. Et en fait, j'ai canalisé que en fait, j'ai été une jumelle en fait. Après, j'en ai plus ou moins parlé à ma mère et qui m'a prétendu qu'elle s'en souvenait pas, mais elle pouvait peut-être pas s'en souvenir. Elle avait peut-être perdu le deuxième, mais en fait, en début de grossesse en fait. Et c'est vrai que j'ai reconnecté ça. Parce que je m'en suis rendu compte aussi où quand j'allais faire des achats, j'étais toujours dans l'hésitation de faire l'achat de 2 choses à chaque fois. Mais ça a été très, très régulier. C'était régulier. Et lorsque je tirais des cartes aussi, c'était toujours 2 qu'on me tirait des cartes et jamais une. Enfin, il y avait plein de similitudes à chaque fois où c'était 2. C'était très rigolo. Et depuis que j'ai reconnecté ça, Je n'ai plus ce manque, je n'ai plus cette tristesse que j'avais en moi, en fait. Voilà.
D'accord. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage.
Avec plaisir.
Moi, j'avais fait une lettre à mon jumeau perdu aussi, parce que c'est en kinésiologie qu'on me l'a sorti ça. Et ma naissance a été très particulière aussi. Et donc j'avais fait aussi un rituel où j'ai brûlé la lettre après pour laisser partir. Et effectivement, après ça, j'avais beaucoup moins de. J'étais plus en paix, on va dire.
Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Moi, du coup, moi, je l'ai fait en rêve, en réalité. Mais j'ai mis du temps à creuser jusque-là. Parce que voilà, c'est le traumatisme primordial de cette vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois au jour d'aujourd'hui. Et je le vois comme, encore une fois, comme un mécanisme intentionnel de la matrice. Voilà, moi, j'ai mis un petit peu de temps à arriver à ça. Donc, bon, voilà, si ça peut vous inspirer. Est-ce que d'autres personnes ont justement connu cette problématique de jumeaux perdus ? Moi, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus fréquent que ce que j'aurais pu imaginer. Donc, j'imagine que certains d'entre vous ont été confrontés à ça, face à un thérapeute ou une sophroanalyse ou une hypnose régressive. Non, personne d'autre pour... Tiens, je vois qu'il y a Lise qui est sur le salon vocal. En tant que thérapeute, Lise, est-ce que tu aurais un témoignage à apporter ?
Bonsoir, désolée parce que je vous écoute, mais je suis en train de faire des choses à côté. Mais c'est super intéressant. Ouais, j'ai plein de choses qui me viennent. Tout ça fait effectivement des empreintes en fait négatives, que ce soit à la naissance. Alors il y a Claude Imbert, je ne sais pas si vous en avez parlé, c'est elle en fait qui a découvert la sophroanalyse. Parce que justement, elle, en sophrologie, elle a retrouvé qu'il y avait des empreintes au moment de la naissance. Donc au départ, elle était vraiment dans les empreintes intra-utérines, c'est-à-dire tout ce qu'a pu ressentir l'âme en tant que fœtus dans le ventre de la maman. Et puis après, en fait, en travaillant avec ses patients, elle s'est rendue compte que quelquefois, il y avait des régressions comme ça qui se faisaient dans des vies antérieures. Alors après, pour l'expérience, en fait, je pense qu'on est dans une matrice, hein, comme il y en a certains qui l'ont dit. On est dans une matrice et on rejoue en boucle, en fait, on est prisonnier dans cette matrice, d'où la notion de karma. Et finalement, à chaque vie, on a des blessures par rapport à ce qu'on vit, aux gens qu'on rencontre, etc. Et puis, en fait, toutes ces blessures, quand on vit cette vie-là, on n'en a plus conscience. C'est pareil, il nous efface notre mémoire. Donc, en fait, on se retrouve avec des comportements dans cette vie-là un peu anormaux. Par exemple, moi, dans mon expérience, avant, quand je voyais des femmes enceintes, je faisais des malaises. Donc, j'étais gênée parce que dans le métro, il fallait que ce soit moi qui m'assoie. Si je pouvais, plutôt que de laisser ma place à la femme enceinte, je me sentais super mal. Et en fait, bien plus tard, hein, des années plus tard, parce que j'avais pas du tout conscience de ce qui se passait, et ben j'ai redécouvert en faisant de la sophroanalyse que j'avais vécu plusieurs traumas de perte d'enfants, etc. Donc pour moi, la grossesse était compliquée. Et d'ailleurs, dans cette vie-là, à chaque fois, j'ai fait des HELLP syndromes dans mes grossesses. Donc en fait, il y a des conséquences comme ça de blessures qui se ravivent. Et effectivement, je pense que aussi on rencontre les personnes dans notre quotidien, les premiers amours, et souvent la matrice s'arrange pour qu'on rencontre les gens finalement avec qui on a un passé un peu compliqué. Et jusqu'à ce que ce soit mis à la conscience et qu'on puisse passer ça, en fait. Mais on se traîne, en fait, des casseroles et qui ont des conséquences dans cette vie-là. Et alors, je reviens sur les reconnaissances d'âme. Effectivement, ça peut être super fort quelquefois. Moi, je l'ai vécu, une reconnaissance d'âme comme ça. Et la première fois qu'on voit la personne, en tout cas, pour ma part, c'était comme... si j'avais toujours vu la personne, donc on se retrouve à avoir des comportements, à dire bonjour comme si on connaissait la personne, et puis là on se dit mais attends, je la connais pas cette personne, et je suis en train de lui dire bonjour comme ça, de cette manière-là, alors que je la connais pas. Et puis après on a plein de, pour ma part en tout cas, j'ai eu plein de manifestations dans les corps. J'avais, après, à chaque fois que je voyais cette personne, j'avais tous mes corps qui se mettaient à vibrer. J'ai même eu une fois les jambes qui ont flageolé. Ça ne m'était jamais arrivé à devoir vite m'asseoir, sinon j'allais tomber. Quoi. Plein de manifestations comme ça qui m'ont fait aller sur ce chemin-là et découvrir voilà, tout ce que pouvaient être les rencontres d'âme, etc. Mais au départ, je me demandais bien ce qui se passait. Ça peut être vraiment très, très fort. Et quand on fait ces rencontres-là, il y a tout qui réapparaît, en fait. Ça, c'est comme si il y avait une mémoire qui était en latence dans le corps, parce que nos cellules ont tout en mémoire, en réalité. Et puis, c'est comme si ça a réactivé la mémoire et il y a tout qui vient se réveiller. Donc, mais on n'en a pas conscience, sauf après, il faut aller... alors après, il y a plein de façons de faire. Hein. Moi, j'ai pris le chemin de la sophroanalyse. J'aime bien parce que c'est soi-même qui découvrons les choses, en fait, un petit peu comme l'hypnose régressive, etc. C'est nous-mêmes qui revivons dans les tripes ce qui s'est passé, en fait, et on retrouve soi-même en étant guidé, évidemment, par le thérapeute, mais c'est soi-même qui revivons les choses. Et je trouve ça beaucoup plus fort que, par exemple, en kinésio, où c'est quelqu'un qui vous dit, ou des voyants, des médiums, etc., qui vous disent votre histoire. Je trouve ça beaucoup plus fort de faire des régressions et de le revivre. Et derrière, il y a du travail qui se fait. Et je pense que le but de ce travail-là, c'est de faire du nettoyage, en fait. Finalement, ça ravive des blessures ou oui, des choses des anciennes vies. Et pour moi, à chaque fois, le but, c'était de remettre à la lumière quelque chose d'ancien et de passer, en fait, le cap de, d'aller nettoyer. Et ça, ça va permettre finalement comme mettre des pansements en fait. Et quand on met des pansements, eh bien, et qu'on répare ces blessures-là, eh bien, finalement, on arrive à... Ça travaille sur nos niveaux de conscience, en fait. Et ça permet d'aller un petit peu plus haut, de passer des marches pour mieux se connecter à notre soi, à notre présence je suis, etc. Pour moi, le but, c'est ça, en fait. C'est d'aller nettoyer un petit peu, c'est réparer, en fait, ces traumas. Et la matrice, elle est vache, entre guillemets. C'est comme si elle faisait un malin plaisir à titiller là où ça fait mal, justement, pour nous faire baisser en vibration. Voilà, un petit peu ce que je pense, ce que je peux dire de tout ça.
Ouais, ben merci beaucoup, Lise, pour ton témoignage. Est-ce que... Alors, il faut que je te coupe ton micro. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir sur ce sujet? Enfin, je trouve que c'est passionnant personnellement, mais...
Oui, j'aimerais intervenir parce que, en fait, c'est un travail que je fais depuis très très longtemps. J'ai utilisé toutes sortes d'outils, je vais dire, et c'est vrai que, si je peux exprimer cet exemple-là, il y a eu, quand j'avais 20 ans et que je passais, j'habite Liège en Belgique, et quand je passais à côté des usines, je me cachais littéralement sous le siège de la voiture, quasiment, tellement que que j'avais peur. Et comment donc c'est arrivé des tas de fois, jusqu'au jour où je me suis retrouvée par hasard, entre guillemets, dans cette usine en question, parce que je ne connaissais pas le chemin, il faisait noir, j'ai pris la route pour rentrer, et je me suis retrouvée dans l'usine. J'ai été paralysée, je suis sortie de la voiture, j'ai été paralysée et je me disais que j'allais mourir. Donc j'ai dû reprendre, je vais dire, ma concentration, prier pour pouvoir reprendre le volant. Hein, j'étais en plus avec mon fils. Et plus tard, alors, j'ai fait une méditation personnelle. Hein, j'avais pas de thérapeute pour essayer de savoir pourquoi j'avais si peur de ces usines. Et c'est vrai qu'en retrouvant alors cette mémoire, parce que quand la conscience, les traumatismes remontent à la conscience, effectivement, il y a une baisse, je vais dire, du traumatisme. On est moins pris dans ses peurs. Et quand j'ai eu découvert tout ça, ben, je me suis retrouvée à devoir passer devant encore une usine, en rentrant dans l'usine avec des choses abominables, je vais dire, pour moi. Et là, ben, j'ai souri en regardant cette usine, j'ai souri parce que la peur était nettement diminuée. Donc, quand ça revient à la conscience, effectivement, on se décharge d'une partie. Et on peut trouver aussi des croyances qu'on a mis en place au niveau, par exemple, de la période fœtale suite à une situation que la mère vit ou quelque chose comme ça. En retournant dans cette période fœtale, on peut trouver des croyances qu'on met en place et qui font que, bon, ben, dans notre vie, on retombe sans cesse dans les mêmes travers, parce que on a décidé de vouloir réparer une relation, une situation, etc. Donc c'est vrai que quand on remet les choses à la conscience, c'est pas facile parce qu'il faut replonger dedans, mais il faut traverser en fait l'événement. Il faut le retraverser. Et c'est en étant parce qu'il y a Edgar Cayce qui a écrit un livre sur les vies antérieures. Et alors, lui, il dit que sans cesse, on a des images de l'inconscient qui nous ramènent aux vies passées. Et c'est vrai que si on fait attention, on peut se rendre compte de choses. On peut avoir un goût psychologique ou une émotion qui revient par rapport à quelque chose. Et si on fait attention, ça nous ramène alors, évidemment, à une vie antérieure. Ça, c'est clair. Mais c'est un travail ardu. Mais c'est la connaissance de soi, pour moi. C'est la connaissance de soi. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais confirmer un petit peu ce que Lise disait. Ce chemin-là, on peut le faire soi-même, avec, en s'informant, etc., en étant aidé. Et c'est quand on revit les choses par soi-même plutôt que quand on nous dit, parce qu'on m'a déjà dit des tas de choses de vie antérieure, mais qui ne me parlaient pas plus que ça. Mais quand on les vit soi-même, c'est clair que ça parle beaucoup plus.
Oui, tout à fait. Voilà. J'adore la couleur de votre voix.
Merci. Mais j'ai une voix, j'ai 63 ans, vous savez. Donc voilà, j'ai beaucoup de travail derrière moi. Et j'en ai encore beaucoup devant.
J'avoue que moi aussi, c'est un peu plaisir de vous entendre.
Ah bon, parce que pourtant, j'ai un petit peu peur de parler.
En plus, moi, ça me fait voyager parce que vous savez, depuis le début de cette période un peu bizarre qu'on vit en ce moment, j'ajoute un peu des gens partout, donc ce soit du Québec, de la France et tous les francophones en fait. Et moi, j'habite en Suisse et je viens du canton de Vaud en Suisse. Et quand j'entends plusieurs personnes qui parlent français, et quand tu vois que le français, en fait, il a tellement de différentes manières d'être exprimé, c'est trop joli, quoi.
Ah bon?
Oui.
Ben voilà. Et je voulais aussi remercier Hervé pour tout ce qu'il fait. Parce qu'en fait, en écoutant en replay le live d'hier sur la situation planétaire, il y a plein de choses qui ont été dites que j'ai vécues, que j'ai eu des expériences énormes. Et je n'ai jamais pu en parler parce que je n'ai jamais été crédible, apparemment. Et comment vais-je dire, donc tout ça, en fait, apporte énormément parce que je ne me sens plus seule. Je me sens tout à fait maintenant plus entourée dans le tout. Je ne suis pas la seule à avoir vécu tout ça. Et ça confirme un petit peu aussi que toutes les expériences que j'ai vécues, ben, elles sont justes. Ça existe. C'est pas, même si je n'ai jamais cru que ça venait d'une fantaisie de mon mental, mais disons que ça a confirmé les fondations de ce travail. Donc voilà. Merci pour tout.
Merci beaucoup pour ton appréciation, c'est très gentil. Et je suis content justement que ça apporte quelque chose. C'est vrai que c'est l'objectif aussi de se sentir moins seul, parce que je sais que beaucoup de gens se sentent très seuls avec un entourage qui n'est pas forcément dans la même vibration. Est-ce que tu pourrais donner un exemple concret justement là par rapport à cette mise à jour de situation planétaire, les commentaires qui ont été faits? Est-ce que tu pourrais donner un exemple concret de... justement par rapport à ton expérience?
En fait, il y en a plein. Il y en a plein. Le plus gros que je veux bien parler, c'est par rapport à l'OVNI, TR3B ou 3D, je ne sais plus là, TR3D.
TR3B, oui, tout à fait.
3B, c'est ça, oui. En fait, bon, je ne veux pas ennuyer non plus les gens avec des expériences comme ça, parce que ça peut être... je n'ai pas envie de...
Une expérience de rencontre d'OVNI, je pense, n'est pas inintéressante.
Ben, en fait, en 1990, je faisais partie d'un enseignement gnostique, et c'est là que j'ai rencontré mon mari, qui est maintenant mon ex-mari. Et nous étions avec les enfants à la campagne, et c'était près de l'hiver, parce qu'on allait chercher du bois qu'il avait en réserve chez des amis qui n'habitaient pas là, c'était leur maison de campagne, et on avait fait une promenade, et un des enfants dit « Oh, regarde, voilà l'étoile de Saint-Nicolas ». Ben, on dit « Ben non, c'est Vénus, etc. » Mais en observant tous les quatre le ciel, on voit cette étoile qui bouge. Et comme notre instructeur, je vais dire, nous avait dit qu'il allait certainement y avoir une apparition d'OVNI, dans la gnose, on prend une position très droite, les bras croisés, pour pouvoir, prendre contact avec l'OVNI. Donc, ce qui fait que moi, je demande que si ce sont des OVNI, qu'ils nous fassent un signe. Et on entend un bruit de tonnerre, mais un roulement de tonnerre pas un roulement de tonnerre d'orage, mais comme un roulement de tonnerre. Or, le ciel était tout à fait dégagé, donc il n'y avait pas de souci, c'était pas ça. Donc, on discute tous les deux, on se dit, ben non, je ne sais pas, voilà, et ça s'en va. Et alors, le soir, la nuit tombée, on était près de rentrer, la voiture était garée près de la maison, et évidemment, passer toute la journée comme ça dans la nature, ben, j'avais un petit besoin personnel. Donc, ce qui fait que je dis, écoute, je vais aller dans le jardin, dans un petit coin du jardin, et puis je reviens, parce qu'on avait une heure de route. Et au moment où j'étais en train de me soulager, j'ai vu arriver ces lumières, et ce n'était pas une soucoupe ronde. C'est en voyant la photo et en entendant parler donc dans le live d'hier, je me suis rendu compte que c'était ça. Et j'ai crié, j'ai hurlé pour appeler mon mari pour partager ça, puisque nous avions fait la demande tous les deux. Et puis, ils sont partis. Et alors, quand je suis retournée à la voiture, parce que ça, je voudrais quand même aussi apporter une petite précision, peut-être. Quand je suis retournée à la voiture, c'était vraiment tout près. J'ai dit, mais j'ai crié, je dis, t'as pas entendu j'ai hurlé après toi. Oh non, et les enfants, ben non, on ne t'a pas entendu. Or, ils n'auraient pas pu ne pas m'entendre. Et ce que j'ai déjà remarqué, c'est que, parce que je me suis posé des questions, je ne savais pas si c'était des êtres positifs ou négatifs. Et en fait, l'énergie, je vais avoir difficile de trouver des mots. C'est-à-dire que quand c'est quelque chose de fort comme ça qui se passe, c'est comme s'il y avait un silence comme une qui se posait et qu'il n'y a plus rien autour qui puisse entendre. Il y a une espèce d'énergie particulière, comme une bulle, je vais dire, mais une bulle très lourde, hein. Et c'est par la suite que j'ai su que c'était vraiment pas très positif et que j'avais bien fait d'hurler. Parce que j'ai eu beaucoup de choses aussi de magie noire qu'on a fait sur moi. Je remercie aujourd'hui certaines personnes, elles le savent bien parce que je crois que je ne serai plus là. Mais déjà très jeune. Et chaque fois, j'ai retrouvé cette énergie à tel point que voilà, je travaillais en milieu hospitalier à l'époque, en gériatrie, je faisais mi-temps, et au moment de retourner, on avait mis toutes les personnes âgées au lit, il y en avait qui étaient très valides et tout, hein, donc on avait couché toutes les autres, et mes collègues étaient dans le fond du couloir. Et alors, en revenant, elles terminaient donc la mise au lit des dernières malades, et alors en revenant, je vois quelque chose sur un tuyau. Et je m'approche pour regarder, parce que je suis très curieuse. Et je m'approche pour regarder, et cette bestiole-là me fonce dessus. J'ai hurlé, mais vous imaginez, 8h, 20h le soir, dans un couloir d'hôpital où tous les malades sont au lit, toutes les chambres sont ouvertes, j'ai hurlé encore une fois, en courant à reculons. Et à un moment donné, cette bête-là est retournée, donc j'ai couru vers mes collègues, tremblante, j'ai dit « écoute, t'as pas entendu, je viens de crier, etc. » Non. Et la bestiole qui était sur le tuyau était, je vais dire, face à une porte ouverte. Et ce malade-là était très conscient, je vais dire, parce que parfois les personnes âgées peuvent être très très faibles, et celui-là, ben, il était valide. Et il n'a rien entendu non plus. Donc, il y a quelque chose qui se met, qui se place, qui entoure la personne, je ne sais pas, l'environnement, qui fait que il y a personne autour qui entend, qui voit quoi que ce soit. Et alors, on m'a dit, oh, mais tu sais, c'est une chauve-souris. Je dis, oui, mais tu viens avec moi, hein, parce que moi, je ne prends pas l'ascenseur. Oh, mais il y en a plein dans le vieux bâtiment. Moi, je travaillais dans le nouveau. Et la chauve-souris tournoyer dans la salle, le salon, si vous voulez, de visite, hein, et la chauve-souris tournait comme une dingue. Donc, voilà un petit peu des choses qui sont arrivées, notamment donc, par rapport aux ovnis.
Ouais, je te remercie pour ce témoignage, c'est très intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter justement avec des personnes qui ont fait des rencontres ovnis, et c'est vrai que la plupart du temps, c'est associé à un ressenti énergétique, voire même à une expérience spirituelle, en fait. Quand c'est des ovnis positifs, justement, en général, les contactés ont une certaine révélation spirituelle, même si à l'origine, ils n'étaient pas forcément dans le domaine de la spiritualité. Et je voulais te demander, c'était quelle année cette rencontre OVNI là ? Parce qu'il y a Olivier en même temps sur le chat Révolution Vibratoire qui nous parle d'une vague belge d'OVNI en 1989, de 1989 à l'été 1991. Est-ce que tu te souviens de l'année ?
Oui, oui, 1990.
Ah oui, tu nous as dit, oui, pardon, 90, oui, bien sûr, 1990.
Donc. Oui. En 1990, oui, vers le mois de novembre, quelque chose comme ça.
Ben, on est en plein dans cette fameuse vague. Et alors, Olivier, tu veux commenter ? Là, tu parlais justement du fait qu'il y a eu évidemment des démentis qui ont été faits officiels dans la presse par rapport à cette vague d'OVNI.
Moi, j'ai assisté à l'époque aussi, je revenais de Grèce. Après l'accident de Tchernobyl, je suis resté quelques mois dans le nord de la France pour différentes choses. Et donc là, effectivement, il y a eu ce qu'on appelle une vague. C'était incroyable. Je dirais que je crois qu'il y a eu 30 ou 40% de la population en Belgique qui ont vu ces TR-3B, parce que c'était réellement des TR-3B. Avec ces trois petites lumières bien identifiables qui sont passées, repassées, etc. Et l'armée américaine à l'époque avait par la suite dit qu'ils faisaient leurs premiers essais des avions furtifs, les F, je ne sais plus combien, c'est un peu loin. Et donc voilà, quoi. Non, mais ça a été un truc incroyable, un peu comme la vague qu'on a connue sur Washington dans les années 50 ou 60, quoi. C'est-à-dire que pratiquement toute la population de Washington a assisté à ce truc-là, quoi. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, je peux vous dire que quand vous levez les yeux dans le ciel, mais il y a une activité incroyable, mais vrai, hein, que ce soit les positifs ou les négatifs. Hein. Les positifs, on les voit moins bien sûr, parce qu'ils sont sur une autre vibration, un autre plan, mais on arrive à les identifier. Il y a une personne, hélas, moi je ne suis pas bilingue, c'est mon grand regret d'ailleurs, sinon, j'aurais peut-être évolué différemment. Mais vous avez Gina Loring, je ne sais jamais comment dire son nom, qui fait des reportages aux États-Unis, mais qui sont incroyables, mais vrai. Enfin, voilà. Enfin, c'est un sujet aussi passionnant. Après, aujourd'hui, là, je suis sûr que tout ça est vrai. Voilà. Après, le reste, voilà. Mais c'est passionnant.
Ouais, tout à fait. Merci beaucoup pour vos deux témoignages. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ?
Oui, je voulais dire que j'ai eu des contacts du troisième type depuis tout petit. Donc, effectivement, comme tu disais, quand tu rencontres des êtres positifs ou négatifs, c'est clair que ce n'est pas du tout la même chose. L'histoire des envahisseurs de David Vincent, qui est une série qui est très vieille, hein. Je pense que bon, il n'y a que ceux qui, comme dirait la chanson, de moins de 30 ans, qui ne peuvent pas savoir. Mais les symptômes, hein, c'est tout se coupe, quoi, hein. Le moteur, l'électronique, l'électricité, tout se coupe. Et là, ce n'est pas bon du tout. Voilà. Bon, les expériences que j'ai eues avec les Acturiens, qui eux, leur vaisseau, d'abord c'était des œufs, voilà, c'était, on appelait ça des œufs, c'est-à-dire que c'était des petites, un œuf, où on pouvait loger à deux maximum, et qui se baladent sur toute la Terre par rapport aux vaisseaux qui sont en orbite, et même des moyens vaisseaux, c'est-à-dire qui font, je dirais, une trentaine de mètres de diamètre, vous les ressentez tout de suite, mais positivement, quoi. On ne peut pas se tromper, hein. Enfin, moi, je ne me suis jamais trompé. Par contre, c'est très flippant quand en pleine nature votre moteur s'arrête ou voire explose et qu'il n'y a personne autour. Et puis surtout, que, comment raconter que vous venez d'assister à ce genre de choses, surtout à l'époque. Ben voilà. Mais c'est vrai qu'on le ressent. Hein.
Ça pourrait nous amener du coup au sujet des abductions, mais ça pourrait nous amener un petit peu trop loin pour ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes là sur le...
Alors là, moi, j'ai jamais été abducté. Hein. Mais j'en...
Moi, je peux...
Oui, vas-y.
J'aurais peut-être un truc à dire parce que, en fait, vous m'entendez bien là ou pas ?
On t'entend très bien.
Ok, parce que je suis dehors avec mon chien, donc j'ai mis les écouteurs. En fait, j'ai adoré écouter la Belge qui est de Liège d'avant, là, je ne sais pas son nom.
Marie-Louise.
Marie-Louise, voilà. En fait, j'ai envie de parler de ça parce que j'en ai jamais vraiment parlé dans ma vie, parce qu'à l'époque, j'en avais parlé, on m'avait pris pour une grosse tarée, folle dingue et tout. En fait, ça devait être en 92 ou 93, parce que j'étais en cinquième. Et en fait, j'ai fait, on peut dire un genre de rêve, mais ce n'était pas un rêve en fait. Un genre de rêve dans lequel j'étais sur une table d'hôpital, genre d'hôpital. C'était très très blanc, genre lumière très très blanche, avec des êtres très longs, très grands, et qui me perforaient les dents en fait. Et pendant qu'on... Donc déjà, ce truc-là, c'était très désagréable. Mais genre vraiment. Et en fait, pendant qu'on me faisait ça, j'avais l'impression qu'on m'arrachait les avant-bras, le dessous des avant-bras, quoi, du coude au poignet, des deux côtés. Et en fait, en me réveillant le matin, c'était comme si je m'étais croûtée en vélo, tu vois, genre des deux côtés, j'avais comme des, pas des griffures, mais des comme une croûte en vélo, vraiment comme une grosse croûte sur tout l'avant-bras, des deux côtés, limite en sang, quoi. Et donc, je me réveille avec ça, alors que j'avais pas de rebord de lit qui aurait pu faire ça, etc. Et donc, j'en ai parlé en premier à ma mère qui s'est foutue de ma gueule, puis à deux, trois potes, notamment aussi une prof de français que j'adorais, que je pensais qu'elle allait pouvoir m'écouter, entendre ce que j'avais à dire. Et en fait, pareil, elle m'a dit non, mais je pense que c'est un drôle de rêve, ça doit être autre chose, je sais pas quoi. Et en fait, cette expérience-là, elle était pas vraiment négative, malgré tout ce que je viens de dire. C'était juste trop bizarre, en fait. Et je me sentais vraiment comme si on m'avait kidnappé, quoi. Enfin, comme si on m'avait... Enfin, j'étais déjà attachée, ma tête était attachée et tout, et on me perforait les dents, quoi, avec un truc... La sensation... Enfin, je me souviens pas de douleur, mais la sensation de gêne trop bizarre. Et ça, du coup, en fait, en entendant tous les trucs, là, je me dis peut-être qu'en fait, il y avait quand même quelque chose, quoi. Je sais pas.
C'était comment dire, ces croûtes dont tu parles, tes proches ne pouvaient pas le nier si elles étaient présentes sur le plan physique.
Bien sûr, mais sauf qu'en fait, tu sais, quand les gens ils ont pas de réponse, et c'est non, mais c'est rien en fait. T'as dû faire un truc, t'as dû te gratter pendant la nuit ou voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens qui veulent pas ouvrir les yeux ou qui veulent pas, tu peux pas en fait lutter contre ça. Et à l'époque, je me souviens, j'étais revenue, j'avais essayé d'en reparler à mes parents deux, trois fois et puis ils se foutaient de ma gueule à chaque fois, quoi.
Et alors, est-ce que c'était pas une expérience d'abduction, justement ?
Je sais pas ce que c'est, vas-y.
Bon, écoute, tu vas découvrir peut-être que tu as été abducté. Une abduction, en fait, c'est tout simplement un enlèvement par des galactiques. En général, c'est plutôt des négatifs parce que les galactiques. Enfin bon, si c'est un enlèvement, en général, on enlève ton corps parce que je pense que les galactiques positifs. Bon, ça, moi, j'ai une expérience personnelle sur ce sujet-là. Ils sont capables de faire des opérations sur nos corps subtils sans avoir besoin de nous déplacer. Par contre, les galactiques négatifs, eux, font des enlèvements physiques et après font des expériences physiques sur les corps, peuvent faire des prélèvements d'ovules, des choses comme ça. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages, ça pourrait nous amener très, très loin. Mais une abduction, c'est ça, c'est un enlèvement par un être extraterrestre pour qu'il puisse mener des expériences sur la personne en question.
D'accord, tout simplement, ouais, ok. Ouais, peut-être. Alors, mais ce qui est bizarre, c'est que, je ne sais pas. Effectivement, le temps, c'est quelque chose de très bizarre hein, qu'on définit pas pareil selon les plans. Du coup, moi, je pense pas avoir disparu de mon lit, quoi. Je pense pas qu'on m'ait vraiment emmené ailleurs. Je pense qu'on a peut-être agi sur un autre plan et que du coup, au réveil, j'avais ça sur mes bras, mais je pense pas que mon corps ait été enlevé, quoi. Tu vois.
Alors après, les personnes qui vivent ça, justement, bah, en général, c'est dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont un vague souvenir d'avoir vécu peut-être le début de l'enlèvement, et puis après, il y a un grand blanc, et puis ils se retrouvent dans leur lit. Et puis, voilà, quand tu regardes, intéresse-toi peut-être au témoignage d'abducté, ça, peut-être que tu pourrais y trouver des choses qui te parlent. Moi, je n'ai pas cette expérience d'abduction dans le plan physique. Par contre, j'ai l'expérience justement sur des opérations chirurgicales qui sont menées sur des plans subtils. Ça, oui, tout à fait.
Ok, ouais, bah j'essaierai d'avoir plus d'infos. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'avais un peu lâché par, tu sais, comme quand tu es jeune, comme ça, ado, on se fout de ta gueule, bah, tu vois, tu lâches l'affaire. En fait, tu dis, ouais, bon, ok, j'ai trippé et c'est tout, quoi. Mais j'essaierai de revoir d'autres infos là-dessus.
L'abduction est beaucoup plus répandue que ce qu'on imagine, en fait. C'est vrai que ce sujet, bien sûr, il a été ridiculisé par beaucoup de gens, mais c'est normal, puisque, il faut ridiculiser le sujet des ovnis et a fortiori le sujet des abductions. Mais après, on pourrait approfondir de ce sujet. Mais bon, visiblement, ils font des prélèvements d'ADN. Si on écoute une contactée américaine, en fait, ils font des prélèvements de gamètes pour après faire des expériences génétiques, et d'après certains, on aurait peut-être de la famille, des demi-frères ou des demi-sœurs qui justement coupaient avec notre propre ADN et de l'ADN stellaire. Voilà, ça peut amener beaucoup, enfin, très très loin. Si tu veux, je me souviens plus de la personne là sur le moment, comment elle s'appelle. Elle est ambassadrice des enfants hybrides justement aux États-Unis. Et je te donnerai un lien sur le sujet. Elle est très intéressante à écouter. Alors malheureusement, elle parle anglais, mais elle raconte des choses très intéressantes justement par rapport au fait que voilà, si elle a été abductée, mais c'était pour quelque part. Alors, si on va jusqu'au bout du truc et qu'on veut le voir d'une façon positive, les abductions amèneraient justement à pouvoir créer des enfants hybrides, et ces enfants hybrides seront mis à la connaissance du public le moment venu pour nous faire accepter plus facilement justement l'existence de galactiques et la variété galactique, et pour qu'on s'aime les uns les autres et qu'on ne rentre pas dans une nouvelle logique de « racisme » entre guillemets. Donc, ces enfants hybrides, justement, serviront de lien entre nous et les races galactiques.
Il y a 10 ans, un ufologue ou médium aux États-Unis certifiait qu'il y avait un Américain sur 5 qui avait été abducté. En Europe, on ne connaît pas les chiffres, vu qu'il n'y a pas eu vraiment d'études. Et cette personne-là disait que ce que tu viens de dire, Hervé, c'était essentiellement nos amis les gris, quand je dis des amis, hein, c'est ironique, qui, eux, auraient un problème de race, et que leur race est en train de s'éteindre. Il suffit de revoir un peu Stargate, d'ailleurs, SG-1, qui en parle bien, d'ailleurs. Et donc, tout ça, ça fait qu'ils essaient d'évoluer leur... au niveau de leur ADN, et que a priori ça ne marcherait pas. Mais bon, voilà. En France, moi j'en ai connu un paquet d'abductés. Je pense que, comme tu dis, c'est pas du tout un phénomène qui est seul. Il y a beaucoup de monde.
Bonjour Hervé, bonjour tout le monde. Je me permets justement de parler du sujet des abductés. Comment dire ? C'est pas un sujet que je maîtrise, mais j'ai connu quelqu'un qui dit avoir été abducté et que j'ai interviewé il y a un an et demi. Alors lui, il racontait qu'en fait, il avait été abducté par les gris, qu'il avait une perte de temps à chaque fois que ça s'était passé, c'est-à-dire qu'on l'avait enlevé. Alors, lorsqu'il revenait, il ne savait pas si on l'avait enlevé physiquement ou pas, mais toujours utile qu'il retrouvait du sang à chaque fois dans les draps. Et il a même une intervention chirurgicale, car je crois qu'il a eu des énormes problèmes d'intestin et des problèmes physiologiques à partir du moment où ces expériences-là ont commencé. Sa vie a été un petit peu vraiment très désagréable pour lui, et il avait beaucoup, beaucoup de mal à s'en défaire. Alors, en même temps, c'est juste une aparté, je ne peux pas valider ou invalider, parce que ça, j'en sais strictement rien, mais on retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a des gris qui vous enlèvent. Il avait expliqué qu'en fait des Nordiques étaient venus l'aider Alors ça, moi, je ne peux pas savoir si ce monsieur disait vrai ou disait faux. Toujours est-il que dans l'interview, je lui ai demandé d'ailleurs. Et il y avait une perte de temps. Et on parlait justement d'Elena Danan qui relate la même chose. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut le valider ou l'invalider. Mais toujours est-il que c'est toujours le même process, d'après ce que je comprends. Et il y a peut-être d'autres process, hein, parce que je pense que c'est multiple. Mais en ce qui concerne leurs expériences, je pense qu'il y avait un type de groupe de gens où c'est arrivé, c'était toujours la même chose. En tous les cas, ce qui revient toujours sur le tapis, c'est la perte de temps. C'est-à-dire que vous avez une notion, il y a un temps qui est perdu. Vous ne savez plus. C'est-à-dire qu'il était 6 heures et en fait, il est toujours 6 heures et il s'est passé quelque chose et vous l'avez totalement perdu. Et ça, c'est récurrent à chaque fois.
J'ai vécu une expérience d'arrêt du temps. Je pourrais vous la partager. C'est un peu différent de ce que vous êtes en train d'expliquer.
D'accord.
J'en ai parlé lors d'un... Enfin, avant que Radio Pléiade ne se développe vraiment. C'était dans les années 1986 à peu près. J'étais lycéenne et je me promenais à Rennes en fait avec une amie et le temps s'est arrêté. C'est-à-dire que tout s'est figé autour de moi. Il y avait beaucoup de monde dans les rues et plus personne ne bougeait. Et mon regard a été attiré en fait de l'autre côté de la rivière, de la Vilaine, par deux êtres, comme des jumeaux en fait, plutôt très blancs. Ils dépassaient tout le monde de deux têtes. Ils devaient faire plus de 2 mètres facilement, 2,50 mètres. Et le temps de réaliser en fait cette expérience, le temps a redémarré. Il ne s'est rien passé d'autre. Juste un arrêt du temps où j'ai attrapé ensuite le bras de l'ami qui marchait avec moi et forcément je l'ai interpellé sur ce que je venais de vivre et tout a redémarré. Et elle n'avait forcément rien vécu. Donc cette expérience, elle est troublante, elle ne m'a jamais quittée. Et en découvrant, en fait, en faisant un développement personnel, en travaillant sur mes traumas, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui, hein. Donc à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. Je me suis interrogée sur ce qui nous entourait et pourquoi moi j'avais vécu ça et pourquoi il n'y avait personne autour de moi qui puisse m'expliquer en fait ce phénomène. Donc je suis expérienceuse, je fais de la recherche, j'observe la nature, l'environnement et c'est vraiment auprès de la nature que je trouve ma ressource. Et il y a quelques années de ça, en rentrant chez moi en Bretagne, j'ai eu comme un appel du lieu hein, qui m'a amené à revenir ici. Et là, j'ai eu le souvenir, et quelqu'un en parlait tout à l'heure, je pense que c'est Marie Manon, du souvenir de ma préincarnation. Je me suis souvenue, en fait, dans un moment assez traumatique, de revivre un moment traumatique, d'avoir cette vision-là. Donc forcément différente aussi de mon entourage. J'ai jamais eu la possibilité vraiment d'en parler avec eux puisque ça a toujours été des rejets, des refus, des négations. Enfin, voilà. Et puis, en 2014, c'est comme ça que j'ai découvert Prepare for Change. J'ai eu cette sensation en fait qu'il y avait un grand basculement de conscience planétaire et que pour la première fois dans ma vie, je ressentais quelque chose de positif, qu'un basculement avait eu lieu et que même si autour de moi tout semblait en fait assez figé pour le coup, un peu différent de ma conscience, eh ben, j'avais découvert autre chose. Et c'est pour ça que je suis là ce soir en fait à vous écouter, à écouter vos expériences différentes et à remercier aussi beaucoup Hervé, Cindy, Lise, enfin, tous ceux qui interviennent pour nous donner de l'information parce que ça permet en fait pour moi de m'ancrer encore plus sur cette terre. Ça a été très dur pour moi d'y rester en tous les cas, mais en tous les cas de comprendre pourquoi il y a ces souvenirs qui reviennent, surtout de pourquoi je me souviens de cette préincarnation, d'avoir choisi mes parents pour vivre l'expérience terrestre et de vivre en tous les cas aujourd'hui, d'être là vivante pour, et d'avoir envie de l'être, hein, pour vivre l'événement, en fait, et faire que cette expérience de la vie terrestre soit vraiment un vécu de paix et d'amour. Donc, ce que je suis en train d'expériencer en ce moment, c'est vraiment cette ouverture du cœur très profonde, ancrée à la Terre et à l'univers, à tout ce que je peux recevoir, et puis aller de façon très intuitive vers ce qui me parle et ce qui fait battre mon cœur. Et en ce moment, il bat très fort de m'exprimer là-dessus avec vous. Donc ça, ça me guide en fait pour me dire dans ma façon de ressentir les choses, puisque c'est dans mon ressenti, c'est juste et bon pour moi. Donc je vous remercie tous de ce que vous partagez et allons vers cette grande libération. Merci à tous.
Alors, merci Nathalie. En tout cas, je retrouve des choses analogues de ce que ce monsieur racontait. Et du coup, il avait une connexion et du coup, il a écrit un livre.
D'accord.
Il y a beaucoup de choses très denses dedans, en tous les cas, en ce qui concerne les races. Donc voilà. C'est assez drôle que chacun raconte son histoire parce qu'on retrouve des analogies, en fait.
Merci.
Nathalie, je voulais juste te remercier pour parce que j'ai senti ton cœur, en fait.
Oui.
Très beau cœur. Mm. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi je suis venu sur la Terre. En tout cas, je suis content d'y être pour ce changement aussi. Mm.
Ah bah dites donc, en tout cas, là, vous êtes tous passionnants autant les uns que les autres. Et franchement, je me suis dit, quand j'ai vu l'émission de la semaine dernière, je me suis dit, oh, c'était vraiment super, spontané, plein de témoignages, mais comment on va réussir à faire aussi bien à chaque fois? Et ben, je crois qu'aujourd'hui, on a réussi à faire aussi bien encore, même peut-être mieux. Enfin, franchement, voilà, on balaye des sujets de façon un petit peu aléatoire. On a parti de la guéguerre dans la communauté spirituelle, on est passé par l'ego, les flammes jumelles, et le TR3B pour arriver aux abductions et aux expériences d'arrêt du temps. Enfin, je trouve ça assez, enfin, super intéressant. Franchement, c'est génial. Et voilà. Bah, je ne sais pas si vous souhaitez encore qu'on complète quelque chose. Ça fait déjà plus de 2 heures qu'on parle. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Et donc, si vous avez si vous voulez encore apporter un complément, allez-y, faites-le. Et puis, j'arrêterai l'enregistrement. Et puis pour ceux qui voudront jouer les prolongations, on pourra laisser le salon ouvert. Il faudrait qu'il y ait un administrateur qui reste pour qu'on puisse laisser le salon ouvert si vous souhaitez encore un petit peu plus de temps pour discuter entre vous, mais hors enregistrement. Merci beaucoup, c'est vraiment super.
Ouais, moi aussi, je suis ravie d'avoir participé. C'est vraiment, vraiment cool, tous ces échanges. Et par contre, ouais, moi je vais devoir éteindre là bientôt, donc par rapport à la communication animale, on fera ça peut-être une autre fois. Mais merci en tout cas à tout le monde, hein, c'est super intéressant. Et puis bah ouais, on y va ensemble, hein, c'est cool.
On grandit ensemble, oui.
En espérant que ceux qui nous écoutent, eux aussi, pourront nous apporter leur témoignage, car je pense qu'il y en a certains qui doivent être très intéressants. Voilà. Je vous remercie tous. Je dois arrêter parce que demain, il y a école, comme dirait l'autre. Et voilà. Et écoutez, vraiment, tout mon amour et je vous embrasse tous. Et j'espère à lundi prochain. Merci. Hein.
Merci, Olivier. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me faire un petit message de bonsoir avant que j'arrête l'enregistrement?
Bon, moi, je voulais dire quelque chose. Oh, Marie.
Ouais. Non, mais vas-y, je t'en prie.
Oui, en fait, je voulais dire quelque chose, même si je suis désolé parce que je fais des interventions, des fois, je ne me rends pas compte si je prends trop la parole, mais en fait, même si peut-être on est enfermé dans cette matrice, peut-être, enfin, sûrement, je me demande, en fait, si ces entités, en fait, qui se nourrissent de nous, en fait, si finalement, ce ne sont pas nos propres peurs qui se sont matérialisées, peut-être à un moment donné, ou parce que, en fait, je sais que on a un potentiel d'évolution, de progression qui est vraiment infini en fait, parce que la vie c'est ça, c'est toujours aller vers plus d'évolution, de progression, d'amour, etc. Et je pense que des fois on est arrêté par nos peurs et puis aussi par la flemme de l'humain, parce que l'humain il est flemmard en fait au fond de lui, Il a un aspect de flemme, en fait. Et je pense que, enfin, je ne sais pas pour vous, mais je pense que la lumière a bientôt son heure, l'heure a bientôt sonné, est en train de sonner, en fait. Et je pense que c'est super beau ce qu'on est en train de vivre là ensemble, avec chacun notre background, comment je dirais, parce qu'on a tous des âges différents, et c'est trop beau en fait de se retrouver maintenant, tous ensemble. Et faut que j'essaie de me concentrer. Ouais. Est-ce que vous pensez justement que même si on est dans cette matrice, on a un potentiel justement de peut-être pardonner, en fait, de pardonner simplement, de guérir tout ça, en fait, ensemble. Parce que même si ces entités nous veulent du mal, potentiellement, je pense que peut-être qu'elles aussi, en fait, ne sont que souffrances et ne sont peut-être que le reflet de nos souffrances, de nos peurs, en fait, matérialisées. Parce que je pense que dans l'univers, en fait, il doit y avoir des endroits où c'est super évolué et puis ils doivent se dire, ah, mais c'est quand qu'ils se bougent les fesses un peu, qu'ils viennent vers nous, parce que souvent, en fait, j'ai des reconnexions à la source qui sont très, très profondes, et je commence à rire pendant des heures, je commence à rire, en fait, et en fait, des fois, je me regarde juste dans le miroir, puis c'est parti, quoi, parce que je vois la source qui me parle, en fait, à travers mes yeux, et je me dis, waouh, en fait, on est vraiment des êtres magnifiques, on devrait vraiment, comment dire, se hisser à la hauteur de notre beauté, quoi. Et je dis ça aussi pour moi, parce que des fois, j'oublie, même pour moi, en fait. Donc, voilà, je voulais juste vous laisser avec ça. Bon, je vais peut-être rester pour les prolongations. Voilà.
Merci pour la joie. Ouais. Merci pour la joie, Kylian, parce que toutes ces émotions, c'est de l'énergie, en fait, de la fréquence, des vibrations. Et on en a vraiment besoin, en fait, de se trouver beau et même d'en rire et d'apporter cette lumière.
Marie-Manon, j'avais le sentiment que tu voulais dire aussi un dernier mot.
Oui, je suis très émue, en fait. Je voulais vous dire merci d'être là, d'exister. De me sentir moins seule, parce que moi, la matière, c'est très, 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 très compliqué. Donc, je travaille l'ancrage depuis très longtemps. Et ça fait ouais, du bien de se sentir épaulée et de voir qu'il y a plein de gens qui oui, je me sens bien d'être avec vous ce soir et me sentir, voilà, moins seule, je me répète, hein, mais les émotions sont là. Voilà. Merci beaucoup et je vous envoie plein d'amour.
Merci Marie, Marie-Manon.
Ah bah c'est très émouvant tout ça. Je vous remercie beaucoup, c'est vraiment super. Je ne m'attendais pas à tant de... à tant de lumière, on va dire ça comme ça. Je vous remercie beaucoup. Je vais parce que bon, il faut bien s'arrêter un moment et c'est vrai qu'il est déjà 23h15. Donc je vais arrêter l'enregistrement. Je vous remercie infiniment pour ces super échanges, mais vraiment vraiment fantastique. Et puis voilà, je sais pas si un administrateur peut rester sur le salon vocal encore un petit peu pour qu'on puisse, pour ceux qui souhaitent continuer un petit peu à échanger hors enregistrement, puissent le faire. Donc je vais stopper l'enregistrement. Merci encore. Et puis ben on vous donne bien sûr rendez-vous donc lundi prochain. Donc voilà, on voulait parler de communication animale, mais ça c'était pas le sujet du jour. Apparemment, c'est pas grave. Ce sera le sujet pour une autre fois. Et justement, c'est vous qui faites les sujets, c'est vous qui donnait un petit peu la ligne directrice et c'est jamais des paroles creuses, donc c'est toujours très intéressant. Et voilà. Donc merci encore et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée et je coupe de ce pas l'enregistrement que je mettrai à disposition du groupe. Voilà, et puis que je posterai aussi sous la forme de vidéos sur YouTube. Donc merci à tous.
Merci.
Merci.
Merci. Bonne soirée, merci.
Est-ce qu'il y a des gens qui restent pour... discuter. Bon, moi, je vais